Émission d'En jase à Boulevard 102.1. Hey, on a déjà un mois de fête avec cette nouvelle émission-là, c'est ça?
Wouhou!
On entend notre deuxième mois. Merci d'être à l'écoute. À chaque midi de midi à 14h, comme vous le savez, Pascal CV est parti monter le Kilimanjaro. Elle sera en onde avec nous avec son téléphone satellite demain matin pour nous raconter son expérience dans Marceau le matin. Une émission à ne pas manquer de 6h à 10h. Par la suite, c'est le point de max de 10h à midi. On en jase de midi à 14h. Et on termine ça avec le retour de Gravel de 14h à 18h. Marceau le soir aussi, là, de 18h à 19h. Donc, pour remplacer Pascal CV, qui est là? Mathias Turcotte, salut!
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Et Antonine Iaccarini qui va nous faire une présence d'une heure par jour. Comment ça va, Anto?
Ça va bien!
Good! C'est le fun! Je suis très content de cette belle équipe de trois.
On s'ennuie de Pascal quand même, là.
Bien sûr!
Mais on
faut
va voir
jamais voir ça, mon commentaire que je viens de dire contre quelqu'un.
Tu vois, c'est je t'ai sauvé que... un peu, tu sais, c'est comme... faut. Ouais. À chaque fois qu'on dit qu'on est content d'être content, il faut dire qu'on s'ennuie de Pascal aussi.
En effet, c'est juste que je suis quelqu'un de positif dans la vie, donc je suis heureux de ce qu'on vit. Météo 18 degrés à l'heure actuelle, 22 degrés généralement ensoleillé pour aujourd'hui, 16 degrés demain, 14 mercredi, 16 jeudi, 19 vendredi, puis savez-vous quoi, ça va être du soleil toute la semaine.
Ah, on est gâté.
Ah, c'est plate, ça se prend mal. On haït l'automne. Aujourd'hui, en jase, on a énormément de sujets à vous parler. Évidemment, on va revenir sur Rocky François Legault ou François Balboa, appelez-le comme vous voulez. Par la suite aussi, on va parler avec Mélanie Hubert, présidente de la FAE, Fédération Autonome d'Enseignement. On va parler justement de cette bataille entre les syndicats et également le gouvernement du Québec. Puis on va parler aussi avec une procureure, et ça va tellement être intéressant dans l'heure de 13. On va parler avec la procureure Maya Ducasse-Atti. C'est concernant les plaintes croisant violence conjugale, donc des hommes qui sont violents avec les femmes, mais qui après ça disent « Non, mais elle aussi, elle m'a frappé. » Donc, les plaintes croisant violence conjugale. Et on va avoir deux personnes de la sphère politique avec nous, c'est-à-dire Gabriel Hardy, nouveau député pour le Parti conservateur du Canada, dans Montmorency, Charlevoix, qui va venir nous voir en studio. Et Maggie Gagné, une jeune femme qui se lance en politique dans l'équipe de Leadership Québec. Vous le savez, j'adore faire de la place aux femmes qui décident de se lancer en politique. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant tout cela, évidemment, on commence avec...
Le caucus. Le caucus.
102-1.
Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, t'as passé une belle fin de semaine?
Très belle fin de semaine.
Ouais, hein, il a fait beau, c'était le fun. Hier, moi, j'ai travaillé dehors sur mon terrain et j'étais très heureux.
Tu vois, c'est ce que j'aurais dû faire, moi.
Ah
travailler
oui?
sur mon terrain.
Qu'est-ce que t'as fait à la place?
J'ai niaisé.
Ah!
Je me suis reposée.
Ouais, une petite journée de repos, ça fait toujours du bien.
Ouais.
Ouais. Samedi soir, j'ai vécu un trip de la mort. J'ai annoncé à Generation Next, à la NSPW, c'était moi l'annonceur. J'annonçais les combats.
Oh.
Hey, j'en ai perdu la voix.
Ben là, ta voix a l'air correcte.
Oui, ma voix était correcte, mais samedi soir, là, je rushais bien raide. Fait que comme j'ai à tout le monde, j'ai sorti le meilleur remède pour la voix. J'ai demandé à un bénévole, va me chercher une bouteille d'eau. Puis à la pause, je suis allé me chercher une grosse canette d'IPA. Hey, oh. Là, j'étais correct.
OK. Moi, c'est pas ça les trucs que j'avais. Moi.
Non.
Il manquait cette version-là dans l'histoire. J'étais comme une grosse bouteille d'eau. Je m'attendais à une bonne Pabst, une bière, je sais pas.
C'est là qu'il est allé, finalement. C'est
ça. Une bonne canette d'IPA. Antonine, pas le choix. Faut que je te fasse écouter. C'est notre ami Mathias qui est rempli de talent, qui nous a fait un super montage. On écoute ça. Est-ce qu'on est à Philadelphie?
J'avoue que des fois, c'est vrai que je me sens un peu comme un boxeur là, qui encaisse des coups. C'est pas la force des coups qui compte, c'est la capacité de les encaisser et d'être capable de continuer d'avancer!
But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.
C'est bon.
Hey, j'étais un militant de la CAQ. Je reviens chez nous, je suis crinqué mes raids. Le troisième mandat, let's go!
Ben, sans blague, là. Nous, on écoute ça de chez nous, puis depuis tantôt, on danse, puis on est comme, yeah! Ouais, parlant de Rocky, imaginez, dans la salle. Les gens, là, ça pogne, là, ce genre d'affaires.
Oh oui. Ça pogne vraiment? Les gens, crois-tu vraiment, François Legault?
Bon, écoute, le message en fin de semaine, c'était « Je suis en pleine forme d'attaque, etc. » Ça, c'est François Legault. Et le message du reste des gens autour de François Legault, donc les députés, ministres, les militants, etc., c'est « Nous sommes unis derrière notre chef. » Puis là, il y avait tout un concept de communication, mais ça fonctionne. Là. Pour le moment, on parle de ça, là, beaucoup.
Mais
là,
c'est clair.
De Rocky et tout ça. Avec la musique, avec la traduction de la quote de Rocky, là, qui est pratiquement la même qui est littérale, mais juste en français. Et ça pourrait même influencer, je me disais ça ce matin, je suis passionnée de communication politique, les caricatures.
T'sais, oui.
Tu viens influencer un peu même jusqu'aux caricatures. Au lieu de montrer, parce que les caricaturistes sont toujours un peu les mêmes procédés. Ouais. Tu vois François Legault, mettons, dans un char tout pété, là, qui essaie de... Bon, des affaires de même, ben là, il risque d'avoir des gants de boxe à quelque part. Là.
Ouais, mais ça, moi, selon moi, ça va plus être des gants de boxe avec la face tout pété.
Exactement.
Oui, à l'inverse, par contre, je me fais l'avocat du diable. Il se lance en guerre contre les syndicats.
Ben oui.
Se lance en guerre contre les médecins. Fait que ça fait des bonnes caricatures de jab à un syndicat ou à un médecin.
T'sais, de toute façon, les caricaturistes vont rire de toi. Fait que t'es aussi bien de jouer un peu avec tout ça. Ils s'auto un peu caricaturent.
Ouais.
Ça fait quand même un message qui vient dire, tu sais, je suis pas en dessous de mon bureau en train de brailler en boule. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain point, je trouve ça quand même efficace comme message. Bon, c'était le congrès en fin de semaine. Ça paraît beaucoup quand il y a des gens qui sont dissidents dans un parti comme la CAQ, parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu de dissidence, finalement.
En effet.
Tu sais, au PQ, je veux juste vous dire, des présidents de comté qui disent qu'il faut que le chef s'en aille un mardi matin. Il n'y a pas de nouvelles là. C'est comme un petit peu le quotidien.
Et on se rappelle du fameux congrès où Bernard Landry avait quitté, là, justement, la chefferie. Là.
Non, mais c'était tout le temps comme ça. Puis quand on organisait un congrès ou un conseil national, là, on se disait comment on va faire pour avoir une nouvelle plus grosse que les 4-5 militants qui vont faire un scrum pour dire que le chef est trop à gauche, trop à droite, pas assez de référendum, machin, machin. Donc, là, on essaie de trouver la nouvelle la plus grosse possible. On appelait ça « lancer un burger ». On lançait un burger journaliste.
Ouais.
Là, c'est sûr qu'en fin de semaine, tu sais, t'as quelques militants qui viennent un peu faire note dissonante. C'est parce que c'est jamais arrivé à la CAQ.
Ben c'est ça. Donc, là, ils deviennent des vedettes instantanées.
Oui.
PQ s'en est sauvé. QS a été formé.
Oui.
Comme ça, c'est QS, le temps qu'ils chicanent sur la place publique dans leur congrès.
Business as usual.
Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, QS, de voir quelqu'un quitter, c'est un mardi matin aussi pour eux.
Oui, c'est
là.
Ça, mais quand c'est l'abondance, ça devient comme un peu la normalité, ça fait moins les nouvelles. T'sais, je dis souvent, sur un drap blanc, là, une petite tache de bouette tout petite là, apparaît beaucoup, beaucoup, alors que quand t'as un grand, une grande bâche toute sale,
bouette, ça apparaît
ça pas. Donc, congrès en fin de semaine, la CAQ est vraiment dans une séquence de communication intense. On essaie de reprendre un peu le contrôle du narratif, du message. La séquence a commencé avec ce remaniement ministériel. Après ça, le PM a fait un discours, il a fait une grosse tournée d'entrevues. Là, il y avait le caucus cette semaine. On a eu pas mal de choses aussi qui sont ressorties de ça, des propositions, etc. En fin de semaine, congrès. Demain, rentrée parlementaire.
Ça va être son discours.
Le grand discours du premier ministre. Donc, on essaie vraiment là, de pousser pour ces nouvelles priorités.
En effet.
Dont la sécurité. Puis ça, là, c'est comme l'autre élément qui me frappe énormément en fin de semaine.
Vas-y donc.
C'est que, bon, premièrement, les priorités de la CAQ, ça a été les mêmes depuis 2018. C'était santé, éducation, identité, environnement, économie. L'environnement, vous allez dire, ben voyons donc, mais oui, c'était...
Bon, oui, ça faisait partie des...
C'était ça.
Ben oui, t'es la preuve, Nordvolt.
Ben, l'énergie propre.
Provient, c'est ça, l'énergie propre provient justement de cette conscience environnementale-là. Ne pas développer le gaz naturel, et là, je pourrais en nommer plein d'autres.
L'électrification des transports. En fait, la vision en environnement de la CAQ, c'était tout ce qui vient pas faire suer trop le citoyen, mettons, on va le faire. C'est à peu près ça. Là, ça a un peu disparu, cette priorité-là, en fait. Puis on va en savoir beaucoup plus dans les prochains mois. Mais la nouvelle priorité qui est apparue, c'est celle de la sécurité. Et Yann Lafrenière, nouveau ministre de la Sécurité publique, très actif depuis sa nomination.
Vraiment.
Il a beaucoup d'entrevues, il rencontre des parties prenantes.
Il a fait son comité de sage.
Exactement.
Oui, d'ailleurs, deux ministres seulement étaient disponibles en entrevue après la sermentation. C'était Yann Lafrenière et ici, dans la région de Québec, Samuel Poulain, parce qu'on voulait pousser le petit gars de la Beauce.
Donc, on le met de l'avant, Yann Lafrenière. T'as un ministre qui est quand même assez populaire. Hein? Oui. Il n'y a pas vraiment de controverses qui ont collé à la peau
du
depuis
tout.
Qu'il est ministre.
Très bien fait avec les relations autochtones.
Absolument. Donc, on lui a ajouté des rôles. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à François Bonnardel, qui est chez eux.
Oui.
Qui s'est fait enlever son rôle.
Qui a boudé, d'ailleurs, en fin de semaine.
Il boude, mais je trouve qu'il y a un peu raison de bouder. Parce qu'il s'est fait sortir du Conseil des ministres. On lui a dit, c'est parce qu'on veut rajeunir le Conseil des ministres, on veut de la nouveauté, fait que c'est bien plate, c'est pas personnel, mon François, mais c'est toi qui perds ton siège, t'as perdu la chaise musicale. T'as le sentiment, toi, comme ministre, d'avoir bien fait, mettons.
Oui.
C'est sûr, il y a eu la commission Galant.
C'est clair. Mais en même temps, Geneviève Guilbeault garde un bon poste aux affaires municipales, puis lui, il est expulsé. Fait que je le comprends de bout d'œil, parce que là, il dit, coudonc, on vient-tu de me pointer comme étant le responsable de ce qui s'est passé?
On peut pas s'empêcher de penser que soit le premier ministre s'est dit, ben là, il faut qu'il y ait une espèce d'imputabilité, fait que j'en enlève un au hasard, ou alors le cabinet du premier ministre pense que le rapport va blâmer en quelque sorte, le cabinet de François Bonnardel, peut-être pour négligence, hein, il l'a dit, le PM, me semble qu'on aurait dû poser plus de questions.
En effet.
Donc, tout ça pour dire que François Bonnardel n'est pas très content. Ça pince. Tu vois Yann Lafrenière qui est mis de l'avant puis que tout à coup, son dossier qui n'a jamais été une priorité, il faut le dire. François Bonnardel, c'est pas qu'il a fait un mauvais travail, un bon travail, peu importe, mais c'était pas une priorité gouvernementale. La sécurité, il y a
non,
des trois dernières
années.
Non,
puis parmi un bon geste qu'il a fait à la fin de son mandat comme ministre de la Sécurité publique, c'est justement les prisons, les filets de sécurité contre les drones, le fait qu'on va enlever les zones. Il avait réussi à négocier ça avec le gouvernement fédéral, on l'a mis en place dans une prison à Montréal et là, on en faisait 8 dans les prochaines années. Alors, tu sais, c'était du travail en dessous de la couverte, là, je vais le dire comme ça. C'était pas flashy, mais c'était du travail bien fait.
C'est pas nécessairement toujours sur la une du journal. Le PM en parlait pas dans ses interventions, etc. Mais il y a des choses qui ont été faites. Puis je me disais, je regardais les entrevues de Yann Lafrenière, puis je me disais, pour vrai, ça serait quoi pour Yann Lafrenière de dire, en passant, tout ce qu'on est en train d'annoncer là serait pas possible sans le travail de mon prédécesseur.
C'est vrai, puis il le fait pas.
Mais il s'est corrigé là, hier. Genre.
Okay.
Yann Lafrenière a pris la parole et il a remercié beaucoup François Bonnardel et Geneviève Guilbeault, qui était avant François Bonnardel dans le même poste. Donc, je me suis dit, bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui a dit, hey, peut-être qu'il faudrait qu'on remercie François Bonnardel, hein, parce qu'on essaie d'éviter aussi que M. Bonnardel sacre son camp.
Ben oui.
Parce qu'on en a déjà assez de gens qui ont sacré leur camp.
Exactement. Puis Bonnardel pourrait faire mal en sacrant son camp. On s'entend, c'est une grosse figure de la CAQ.
Un petit peu plus que Pierre Dufour,
ouais,
mettons.
Oui, c'est ça. Un ancien Lodécun, un petit peu plus que Maïté Blanchette Vézineau aussi, avec tout le respect que j'ai pour elle. Puis Bonnardel, il pourrait décider vraiment de faire mal en sait-on jamais, disant « Savez-vous quoi? Moi, je suis un gars de la droite, je viens de l'ADQ. Éric Duhaime, j'ai travaillé avec lui à l'ADQ. Envoyez donc, moi, il donner un petit coup de pouce. »
Pourquoi pas? Bon, cela dit, je pense pas que ça va arriver.
Moi non plus.
Parce que il y a ses idées, c'est un ancien de l'ADQ, il est fâché, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, on dit, très loyal, qui aime pas faire des vagues pour faire des vagues. Donc, moi, je pense qu'il va se calmer, mais ça a l'air qu'il y a une grosse opération « caring » en bon français, si vous me passez l'expression. Tu sais, un « whip » dans un parti, ça sert notamment à ça. C'est pas seulement d'envoyer le monde voter pendant les votes sur les motions, puis tout ça, c'est aussi de s'assurer quand t'as quelqu'un qui est moins heureux ou qui participe moins, ben de s'assurer d'une certaine mobilisation au sein de tes troupes. Donc, il y aurait une petite opération comme ça pour essayer de, disons, rester à l'écoute de François Bonnardel, mais tu vois que c'est pas facile.
Avant de passer à la guerre que se livrent le gouvernement et les centrales syndicales, je te fais écouter à nouveau François Legault avec son Rocky Balboa.
Oui, je suis prêt à continuer à encaisser des coups, puis je suis prêt. Je fais pas ça pour moi, là. Je fais ça pour vous autres. Je fais ça pour les Québécois.
Il y n'y aura pas de chemin facile pour François Legault. Tu sais, quand il dit « je fais pas ça pour moi, je le fais pour vous, les Québécois », mais ça résonne ça encore chez les Québécois?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, comme commentateur, comme chroniqueur, tu sais, moi, je me remets souvent en question, je me dis « est-ce que c'est nous là, qui sommes en train de dire que ça va mal? » Puis à force de dire que ça va mal, bien, ça va mal. Tu sais, fait il faut se remettre en question, mais non, il y a une usure du pouvoir. François Legault, ça fait 7 ans qu'il est premier ministre. Il y a des cycles politiques aussi, à un moment donné, c'est normal. Il y a eu des fiascos aussi, il faut le dire,
ben oui,
qui n'ont pas été grillés par les médias. Là.
Ben, des lions électriques, Nordvolt, Satlick.
Recul, tango sur le troisième lien. On pourra en nommer la hausse de salaire des députés. Ça n'a pas très bien passé. Les Kings de Los Angeles. Bon, bref, on ne fera pas toute la liste ici aujourd'hui. Mais ça a contribué aussi à user puis à faire en sorte que les gens sont moins à l'écoute. Puis, on a beau faire un remaniement, on a beau dire on va mettre nos priorités davantage de l'avant. Hey, je l'écoutais en fin de semaine aussi, là. Encore une fois, l'ancienne staff de communication qui parle, mais il dit « je me suis fait dire beaucoup par les militants là, qu'on communiquait pas assez bien, là, qu'il fallait plus communiquer. Hey, » moi, là, ça, j'entends du sang politique. Bien sûr, c'est la faute des communications si on ne gagne pas de points politiques.
Mais tu es parlant de communication, justement, puis on le met énormément à l'avant-plan, François Legault, puis je suis pas certain quand il se fait sa propre comparaison de cet homme-là que c'est gagnant.
On est un parti nationaliste à la CAQ et on va le démontrer encore une fois. Il n'y a pas personne depuis René Lévesque qui en a fait plus que nous autres, puis on va en faire encore plus dans les prochains mois.
OK, il n'y a pas personne depuis René Lévesque. Attends, référendum 95.
C'est jamais arrivé, ça.
Parizeau, Lucien Bouchard.
rien qui s'est passé depuis ce
temps-là. Après ça, le PQ sous Lucien Bouchard, il n'y a pas personne qui a fait...
Mais c'est drôle en plus, parce que si on pense à Lucien Bouchard, il me semble que les idées de Lucien Bouchard sont plus proches de celles de François Legault que de se comparer à René Lévesque. C'est
exactement.
Comme si c'était juste utilisé comme un buzzword, finalement, parce que... On a toute une petite nostalgie, puis que René Lévesque, on l'idéalise beaucoup. Mais à travers tout ça, vraiment, est-ce que les gens sont encore à l'écoute? Parce que t'as beau tout changer, tes messages, ton monde autour de toi. François Legault a été extrêmement populaire. Ça a été un premier ministre.
Ah, vraiment?
Qui a eu une relation même émotive un peu avec les Québécois. Là, on n'est pas là-dedans beaucoup, mais rappelons-nous la pandémie.
Ben oui, créé avec la pandémie, les fameuses conférences de presse à 13 heures qu'on écoutait religieusement.
Même avant ça, quand la CAQ est arrivée, il y a eu une grosse lune de miel, même pré-pandémie, où on arrivait avec des idées plus nationalistes après des années de gouvernements libéraux, laïcité, immigration, langue française, toutes des choses qui revenaient un peu là, à l'avant-plan. Puis cette lune de miel-là avec les Québécois, ben, je trouve que maintenant qu'elle s'effrite et que ça va moins bien, mais ça reste émotif. Les gens ne sont pas en mode indifférence parce que François Legault, ils sont déçus, sont tristes, on dirait même des fois, quand ils regardent François Legault. Puis je vais vous faire une petite prédiction. Moi, je pense que François Legault, ça va être, à moins qu'il fasse vraiment des bêtises dans sa vie post-premier ministre, je pense que ça va être un des anciens premiers ministres les plus populaires. Tu sais, quand les années passent, on se met à les re-aimer. Là.
Oui,
tu sais,
Mme
Marois, là, ça a été dur du début à la fin avec Mme Marois. Puis maintenant, elle est respectée, elle est aimée. Moi, je le sens à chaque fois qu'elle sort dans les médias, elle y va avec parcimonie. Mm-hmm. Puis les gens ont l'air de l'aimer, puis même de se dire, ben, elle était bonne finalement, Mme Marois. Comment ça se fait qu'on l'a ramassée de même quand elle était première ministre?
Philippe Couillard, année d'austérité, fait un podcast avec une animatrice de Radio Cannes, puis après ça, le monde médiatique reprend ce podcast-là en disant, hey, avais-tu raison, Philippe
Et
Couillard?
Voilà, hein? Hey, Jean Charest.
Ben c'est, oui, Jean Charest, quel
il
bel exemple.
Il est populaire ces temps-ci, Jean Charest, alors
Jean
que quand Charest il est parti, c'était l'horreur.
Jean Charest est venu à la Chambre des commerces faire un discours au début septembre, puis c'était la grosse affaire. Jean Charest est à Québec, l'ancien premier ministre. On avait tout oublié à la commission Charbonneau.
Tout ça, ça n'avait pas existé, là,
ça
maintenant.
Pas existé,
là. On
là,
oublie,
il
n'y
avait
on
pas de problème. On l'aimait-tu, Jean Charest, hein, pour son franc-parler?
Écoute, c'est surréaliste, mais je pense que François Legault va aussi, ça va y arriver à lui aussi, ça. Puis les gens vont éventuellement, mais je pense pas que ça peut arriver en étant encore premier ministre.
En étant encore là, exactement. Réforme syndicale du côté du gouvernement, on parle justement par rapport aux cotisations syndicales. On le sait, il y a un projet de loi qui va passer pour les services essentiels. Moi et toi, on est d'accord là-dessus que c'est un projet de loi qui fait plein de sens parce qu'il faut, puis je donne toujours le même exemple, que quand il y a une grève au RTC, que les autobus continuent à circuler pour les plus défavorisés, les gens qui en ont besoin pour le travail.
C'est sûr que les syndicats ne seront jamais d'accord avec une affaire de même parce que ça t'enlève évidemment un moyen de pression. Plus on élargit la notion de service essentiel, bien évidemment, moins les travailleurs peuvent faire pression. Mais aussi, un autre exemple là, par rapport aux services essentiels, c'est la grève en éducation. Parce que c'est sûr que les jeunes sont restés sans école pendant longtemps.
C'est clair.
Pour la majorité des élèves, ça va, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais il y en a pour lesquels ça a été très grave. Puis tu sais, je pense notamment aux parents d'enfants autistes qui ont des enfants qui vont dans des milieux scolaires et qui voient leurs habitudes complètement chamboulées, vraiment difficiles pour certains de ces enfants-là. Puis je trouve que le projet de loi qui a été présenté est balancé. Là. C'est-à-dire que c'est pas le gouvernement qui met son poing sur la table et qui dit retourner au travail. C'est pas non. comme ça. Il y a une notion là, de médiation, d'arbitrage devant un juge, mm-hmm. etc. Ça me semblait bien raisonnable. Mais là, on va aller plus loin.
Là, on s'attaque aux cotisations. Puis, tu sais, les gens le savent, là, à l'antenne de Boulevard, je suis vraiment pas un pro-syndicaliste. Là. J'ai travaillé longtemps comme gestionnaire dans des milieux syndicaux, puis c'est pas facile. Mm-hmm. Quoique, quand tu veux, tu tisses un bon lien avec la partie syndicale, parce que c'est des gens quand même qui ont une bonne tête. Là, de s'attaquer aux cotisations, est-ce qu'on fait ça juste parce qu'on est frustré que la FAE ait contesté la loi de la laïcité à la Cour suprême? Tu sais, ça m'apparaît une
revanche.
Genre de petite revanche et une façon d'essayer de regagner de la popularité. Je me trompe-tu?
Ben, je pense qu'il y a une stratégie politique en arrière de ça. Moi, je me suis vraiment demandé. Je regardais ça depuis quelques jours parce que ça a coulé là, tout ça dans les journaux. Oui. Fait que là, il y a comme un débat sur quelque chose qu'on ne sait pas vraiment ça va être quoi. Puis ça, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. On en parle, mais dans le fond, Jean Boulay a dit là, il va y avoir un projet de loi, puis c'est un outrage au Parlement de donner les détails, puis il y a même une enquête qui a été déclenchée pour savoir qui avait coulé l'affaire et tout ça. Fait qu'on débat un peu dans l'inconnu. J'essayais de me demander à quel problème ça vient répondre, cette affaire-là.
Ben exactement. Parce que on a parlé avec Marc Ranger, justement, un ancien président de syndicat de la fonction publique canadienne. Puis vraiment, c'est pour ça que j'aime ça parler avec des gens aussi qui pensent différemment de moi. Marc Ranger nous a dit, et avec raison, il dit « Hey, attendez une minute, là. Si on enlève les cotisations pour la publicité, les médias comme vous autres, là, vous perdez des centaines de milliers de dollars
c'est
par an. »
C'est un bon point aussi, effectivement.
J'ai fait, hey, c'est vrai ça.
Mais en même temps, c'est aux travailleurs, tout le temps, de payer pour. Bon, la question peut se poser.
Puis là, en plus, Marc faisait une bonne blague. Il disait, en plus, nos publicités sont tellement mauvaises que ça fait adhérer personne.
Hey, attends, là, je pourrais faire une demi-heure sur les publicités syndicales. Des fois, il y a des affiches, OK, je n'aimerais pas de syndicat, mais je regarde le slogan puis je dis, je comprends même pas de quoi on parle ici. Il y a du travail à faire. Cela dit, est-ce qu'on avait vraiment un enjeu? Est-ce que c'est possible de trouver des travailleurs qui sont obligés de payer une cotisation syndicale puis qu'eux, ça leur tenterait pas de la payer? Mm-hmm. Bien sûr.
C'est clair.
Parce qu'en ce moment, on est dans une règle de majorité.
On va leur faire à 418-971-102. On a posé la question vendredi. Il y en a plein qui nous écrivaient pour nous dire « Ben ouais, mais moi, si on peut m'enlever cette cotisation-là, tant mieux parce que moi, je suis de droite économique puis ils font juste défendre l'environnement. »
Fait qu'on peut en trouver des gens qui sont pas contents de ça, mais c'est sûr qu'en rendant les cotisations facultatives, ben, t'affaiblis les syndicats.
C'est
automatiquement. Puis, tu sais, les relations de travail, c'est un équilibre. On essaie toujours d'équilibrer pour que. Puis là, on ne fera pas l'histoire du syndicalisme, là, mais il y a eu une époque à laquelle les patrons étaient tout puissants. Puis on a essayé de mettre des contrebalanciers, puis de s'encadrer de lois pour que les travailleurs soient en mesure de se défendre, de se mettre ensemble, etc. Là, dans ce cas-ci, j'ai un petit peu de difficulté à voir l'enjeu avec les cotisations syndicales. Par contre, tout ce qui touche la transparence, la gouvernance, moi, je pense qu'il y a un débat à
clairement
faire. Les syndicats, ce sont des acteurs politiques aussi, même si c'est pas des partis politiques.
Ils sont pas votés démocratiquement, mais ils agissent comme des acteurs politiques. Farnell nous disait vendredi, ils agissent comme un contre-pouvoir.
Absolument. Puis toi, si t'es travailleur, puis tu donnes des sous, ben c'est comme les impôts puis les taxes. T'as le droit à une reddition de compte puis une transparence en échange. Est-ce que c'est au gouvernement d'aller dire ça aux syndicats ou c'est de la gestion interne? Ben, à un moment donné, ça touche tellement de monde que oui, le gouvernement a un rôle à jouer. Par contre, si c'est juste pour aller gagner des points politiques, c'est un équilibre qui est quand même fragile. Moi, je pense qu'il faut avoir des débats sereins sur la question. Jean Boulay, ministre du Travail, c'est pas le plus virulent, le plus à droite, le plus rentre-dedans. Il est ministre du Travail depuis longtemps. Le ministre du Travail, c'est justement le gardien
de l'équilibre. Ben oui.
Donc, je sais pas personnellement s'il est très confortable dans cette nouvelle confrontation. Lui, il dit non, je serai pas en mode confrontation avec les syndicats. Mais on verra comment ça se déroule et la teneur surtout du projet de loi.
Parlant de mode de confrontation, on termine avec ça. Je te fais écouter justement un extrait du docteur Amio, qui est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens. C'était la semaine dernière.
J'en appelle au sens de l'État du premier ministre. On n'a pas le droit de faire la grève, on n'a pas le droit d'impacter les patients. Puis en plus, le gouvernement nous dit, vous n'avez pas le droit à l'arbitrage. On a le pouvoir de décider toutes vos conditions de pratique. Vous n'avez plus un mot à dire. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cet État-là dans lequel on vit?
Deux choses par rapport à ça aujourd'hui. La FMOQ a décidé de reculer. Ce n'est plus la date du 1er octobre, mais du 4 octobre pour l'arrêt d'enseignement en disant « On va faire confiance à la médiation pour cette semaine. » Et du même coup, ben Christian Dubé qui dit « Savez-vous quoi? » Dès janvier, il va y avoir 1,2 million de patients qui vont être pris en charge.
Hey, c'est-tu pas beau, la vie? C'est fini. Il n'y a plus personne qui n'aura pas de médecin de famille.
C'est ça!
Excellent. Tu dis, moi, politiquement, c'est rough, là, parce que j'ai des centaines de milliers de Québécois qui attendent un médecin de famille. Comment je pourrais faire pour régler mon problème?
Ben oui! Mais c'est magique, ça, parce que ça fait, quoi, 15, 20, 25 ans qu'on attend que tous les Québécois aient un médecin de famille.
C'est réglé!
Puis là, c'est réglé avec un projet de loi puis un désir du ministre. Écoute, j'aime ça. C'est moi, il y a un magicien qui
s'est dit. Les solutions magiques. Bon, évidemment, les médecins sont sortis pour dire que, franchement, être inscrit dans un GMF, si tu n'as pas accès finalement à ton médecin parce qu'ils sont déjà débordés, ça ne changera pas grand-chose.
Médecin de famille est déjà débordée.
Bien, c'est ça. Par contre, là, je me suis dit, Christian Dubé, il y a quand même une méthode de travail qui est particulière. J'ai fait un parallèle dans ma tête avec l'abolition du recours aux agences privées de placement de personnel.
Oui.
OK, donc les CIUSSS et CIS avaient affaire à des agences privées qui plaçaient des infirmières, des préposés aux bénéficiaires notamment. Et à un moment donné, le ministre a dit, c'est fini. Vous ne pouvez plus recourir à des agences privées. Puis là, tout le monde a annoncé l'apocalypse dans le réseau. Avec raison, cela dit, parce qu'il y avait une grande dépendance.
Clairement.
Et d'arrêter les agences cold turkey. Qui, encore une fois, en bon français, c'est-à-dire sans faire ça de manière, disons, transitoire et graduelle, on a eu des découvertures de services, notamment sur la Côte-Nord. Donc, ça ne s'est pas fait sans casser des œufs. Mais un an et demi plus tard, c'est vrai que la dépendance a baissé.
Oui.
Et en échange, en fait, cette affaire-là avec les agences, bien, c'était aussi pour, dans le cadre de la négociation avec les infirmières. Les infirmières, la FIC exigeait ça.
Ça.
Et là, en échange, on est allé chercher autre chose. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas parfait, là.
Non.
Mais il a quand même un peu réussi son pari. Puis il s'attaque à des blocs un après l'autre. Il avait fait les agences. Là, on s'attaque à quoi? À la liste d'attente. Puis on essaie de donner un électrochoc pour qu'après, un peu, tous les blocs se replacent autour. Est-ce que ça va fonctionner? Je suis un peu sceptique, là. Puis c'est aussi une tactique de négociation, en passant, là. T'sais, tout ça se fait dans le cadre des négociations, avec cet ultimatum là, qui est lancé par la FMOQ, qui va faire d'autres moyens de pression si jamais la médiation ne fonctionne pas. Donc, il faut y voir aussi un jeu. Je pense pas qu'en janvier, il va y avoir 1,2 million de personnes inscrites déjà. Je ne
penserais pas, mais c'est sa façon de faire. En terminant en 30 secondes, crois-tu que la FMOQ va accepter un projet de loi? Parce que c'est ça, là, eux, ils disent, nous, tant qu'il y a un projet de loi, on négocie pas. Est-ce que tu penses qu'on va réussir cette semaine avec la médiation à dire, ben, il va y avoir un projet de loi, mais on a réussi à avoir des gains. T'es, penses-tu qu'on s'en va vers là?
Ah, ils sont vraiment fâchés de ce projet de loi-là, puis ils sont grimpés dans les rideaux depuis ce temps-là. Mais là, ce qui se passe, c'est que les médecins demandent à Québec de lâcher leur projet de loi. Le projet de loi, c'est le levier de négociation.
C'est ça.
Et Québec demande aux médecins de pas faire de moyens de pression. C'est leur levier de négociation.
Donc, ça marche pas.
Arrêtez donc de vous demander de lâcher vos leviers de négociation. Soyez-vous à la table.
Exactement. Soyez-vous et négociez. Puis moi, la façon que je le vois, le projet de loi, c'est un peu comme une annexe d'une convention collective.
Oui, mais il le voit comme une épée de Damoclès. Et c'est rendu tellement émotif et sensible que finalement, c'est comme s'ils le prenaient comme une insulte, puis ça les empêche, on dirait, d'entendre le reste. Puis je les comprends, puis ils sont un peu à bout. Puis c'est vrai que c'est pas facile de travailler dans le réseau public. Là, on les comprend aussi. Mais là, d'avoir comme condition que tout le monde lâche ses moyens de pression puis ses leviers de négociation, on n'avancera pas la gang.
Ben non,
là,
ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Antonine Iaccarini, toujours un plaisir. Tu restes avec nous pour la prochaine demi-heure?
Yes.
On va avoir Gabriel Hardy, député du Parti conservateur du Canada pour Montmorency-Charlevoix, qui va venir s'asseoir avec nous. On veut prendre de ses nouvelles. C'est sa première session parlementaire. Donc, comment il vit ceci? Comment les conservateurs se préparent à ce budget, ce déficit-là, justement, record de 100 milliards de dollars annoncés? Et on aura Mélanie Hubert, présidente de la FAE, Fédération autonome de l'enseignement, qui va être avec nous aussi. On va parler de cette guerre ouverte entre le gouvernement et la partie syndicale. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase.
On jase.
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101 de midi à 14h. Le retour de Gravel va suivre par la suite. Pour réagir avec nous, 418-971-101. Vous êtes plusieurs à le faire, notamment pour dire que vous étiez très mal à l'aise avec les comparaisons de François Legault et René Lévesque.
Ah ouais, le monde n'a pas aimé ça.
Oui, les gens n'ont pas aimé ça. Il y a Stéphane aussi qui nous écrit « Quelqu'un qui a un ego comme ça, ça me turn off bien raide. Il n'y aura sûrement pas mon vote. On veut des résultats, pas quelqu'un qui a un ego comme ça. » Alors, les gens n'ont vraiment pas apprécié le fait que François Legault se compare à, on va le dire, là, un monument politique avec René Lévesque. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle justement avec un nouveau politicien qui est à la Chambre des communes à Ottawa. Il est le député du Parti conservateur du Canada pour Montmorency-Charlevoix. C'est Gabriel Hardy. Gabriel, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Gab, tu me disais, hors d'onde, je suis comme un poisson dans l'eau. Moi, je me sens bien en politique.
Ah oui, vraiment.
Ouais?
Vraiment.
T'es sur ton X?
Je suis vraiment sur mon X. Évidemment, là, j'ai une grande carrière, ben, pas grande, longue, là, mais je suis préparateur physique depuis des années. J'ai fait beaucoup de médias. J'ai fait de la représentation aussi d'industrie. Je suis très à l'aise en public. J'aimais donner des conférences. Je pense que j'ai une belle histoire aussi, tu sais, au niveau d'avoir vécu une faillite à un certain moment de ma vie, de m'être relevé et tout ça. Puis un petit peu le melting pot de tout arrive. Puis là, ben, quand je suis élu en politique, je représente 100 000 personnes. Puis c'est vraiment avec une grande révérence que je rentre au Parlement à chaque jour. Puis je me dis, wow, t'es chanceux d'être ici. Puis je veux amener ce point de vue-là des gens, tu sais, de Montmorency-Charlevoix vers Ottawa. C'est toujours ce que je dis. Mais tu sais, je suis pas gêné de me lever en chambre. Je suis capable de comprendre aussi, tu sais, qu'on c'est un pays qui est géré, là, donc il y a des concessions des fois à faire. Je jase avec du monde de partout au pays. Je suis parfaitement bilingue, ça aussi, ça m'aide énormément parce que je jase avec du monde de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, puis ils me disent « Hey man, c'est tellement riche que tu aies deux langages comme ça. » Fait que le rayonnement du français, je le fais beaucoup au Parlement. Donc c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup ce que je fais présentement.
Des fois, les entrepreneurs qui se lancent en politique, là, on dit on est sur notre X, tout ça, ça va bien, mais des fois, ils trouvent que ça va pas assez vite, par contre. Ouais. Que tout est un peu plus lent, un peu plus compliqué. Le rythme parlementaire aussi, est-ce que c'est quelque chose qui ressort?
Je te dirais que ça va en deux temps. Moi, j'essaie vraiment d'être de ce côté-là entrepreneur, c'est-à-dire que la game politique que les gens voient, puis souvent, je vais comparer le Parlement à une partie de hockey. Parce que, bon, dans mon passé,
une métaphore
j'ai
sportive,
une métaphore
évidemment.
Sportive, évidemment. Puis, tu sais, moi, j'ai entraîné des joueurs toute ma carrière jusqu'à très récemment qui étaient dans des équipes différentes. Donc, tu sais, je sais pas, moi, Yannick Gourde ou John Marchessault ou Matt Olivier, ben quand ils s'entraînent ensemble l'été, ils ont du fun, ils rient, tu sais, c'est des amis, mais quand ils arrivent sur la glace, ils sont pas dans le même camp. Fait que si John a la puck dans le coin de la bande, puis Matt Olivier arrive, ben il faut qu'il frappe. C'est normal, ça fait partie du jeu.
Puis là, ça va faire mal parce qu'Olivier peut-être a un pied de plus que Marchessault.
Mais ça veut pas dire qu'il est obligé d'être chien avec puis d'être vraiment agressif puis tu sais, d'y aller en bas de la ceinture. Mais ça fait partie du jeu. Alors, moi, le côté entrepreneur, ce que j'amène, c'est dans le Parlement, quand on se lève, on pose des questions, on est dans les camps adverses. Ceci étant dit, j'ai des dossiers à faire avancer puis ma job, c'est de représenter les gens puis de faire avancer Montmorency-Charlevoix. Donc moi, en arrière des coulisses, là, je parle aux ministres, je parle aux autres députés. Je cherche des moyens novateurs un peu ou créatifs de faire avancer les dossiers. Je demande pas la charité, là, mais je demande des comptes. On est rendu avec ce dossier-là. Il y a ça qui est important. Comment le gouvernement se positionne? Il faut faire avancer la politique pour qu'elle se positionne pour les gens. Alors ça, c'est le côté entrepreneur. Le côté, par contre, que je peux comprendre, c'est de dire, écoutez, c'est un pays, là. C'est pas une petite business, mon gym sur le coin de la rue, là, c'est un pays. Donc, on peut pas aller vite puis faire des grosses erreurs parce que l'erreur est multipliée fois énormément quand tu décides que tu changes une loi puis que, oups, ouais, j'avais pas vu ça finalement. Et quand le gouvernement, des fois, bouge trop vite, on l'a vu dans les derniers temps, ben là, ça crée des gros problèmes. Puis là, finalement, on va se rétracter parce que là, mais là, non, tu peux pas faire ça. Il faut, en tant que politicien puis en tant que politicien au fédéral, que tu aies vu tous les axes et quand tu prends une décision, ben que ça avance puis que tu aies vu ce qui s'en vient. Donc, c'est ça.
Tu parlais de gros dossiers, puis je t'amène chemin dans ta région de Charlevoix. On a parlé beaucoup du SLA à Charlevoix.
Oui.
Comment tu vois ça? Là? Je sais que Christian Dubé a demandé justement à la santé publique d'intervenir, de faire une étude.
Oui.
Es-tu en partenariat avec le gouvernement du Québec là-dessus?
Dans plusieurs dossiers, je vais faire partie de l'équation. Je vais essayer d'aider. Dans le cas de la SLA, évidemment, c'est préoccupant. Ceci étant dit, c'est vraiment un enjeu provincial. Donc, la santé publique, c'est vraiment à eux. Puis je suis content qu'ils se soient positionnés puis qu'ils aient dit on va avancer. Si moi, je peux être un porteur de drapeau pour quelque chose, d'aller voir au niveau fédéral, y a-t-il des programmes qui existent qui pourraient soutenir et autres, ça, je vais l'être. Mais de ce que je comprends jusqu'à date, puis les renseignements que je suis allé chercher, c'était vraiment plus un enjeu provincial. Alors, même si des fois, tu sais, dans d'autres dossiers, s'il y a des enjeux provinciaux, j'essaie tout le temps de faire partie quelque part de l'équation. Puis s'ils m'appellent, bien, je vais essayer d'être un aide, un pont, un lien. des fois amener une réflexion différente. Tu sais, des fois même, j'enlève mon chapeau de député, là, parce que bon, j'ai pas 25 ans de carrière. Puis des fois, je le dis aux gens, aux maires, mairesse, préfets, écoutez, là, je vous parle, là j'enlève mon chapeau de député, puis je mets mon chapeau d'entrepreneur. Ouais. Là. Avez-vous analysé ça de telle manière? Puis souvent, c'est sorti dans les discussions qui me disent, ben crème, il n'y a jamais personne qui m'a parlé comme ça. Il ne m'avait pas amené ce point de vue-là. C'est intéressant, on va te revenir là-dessus. Fait que c'est, ce côté-là, entrepreneur, ouais, m'aide.
Ouais. Que t'aimes pour faire avancer justement, ouais, les choses.
Est-ce que le fait d'être un député d'opposition, ça nous limite beaucoup justement pour faire atterrir des dossiers? Tu sais, j'ai vu te poser des questions déjà depuis, ouais, le début, ouais, de la session. Tu t'appelles des ministres, tu fais avancer tes dossiers, mais ça doit quand même des fois être frustrant quand tu es dans l'opposition, voir les obstacles finalement à faire avancer des choses.
Écoute, on m'a dit quand je suis arrivé que la pire des journées au pouvoir, c'est mieux que la meilleure des journées à l'opposition.
Ouais.
Alors ça, c'est ce qu'on m'a dit en arrivant. Puis moi, bien évidemment, je connaissais pas ça. Je suis comme, whoop, ma vie, elle va être le fun dans les prochains temps.
compte tenu que t'es dans l'opposition.
Compte tenu que je suis dans l'opposition. Ceci étant dit, pour un jeune député, là, puis de ce que je vis, là, je suis pas content d'être à l'opposition, on va juste être clair là-dessus, là. Mais pour un jeune député, c'est une très, très bonne école. Parce que moi, je me suis levé au-dessus de 40 fois dans le Parlement. On est beaucoup plus souvent debout. On doit apprendre comment fonctionne le Parlement. On doit apprendre toutes les ramifications. Puis ça l'aide, à mon avis, parce que quand je regarde de l'autre côté, quand on pose des questions, c'est à peu près tout le temps les 4-5 mêmes qui se lèvent. Fait que tu sais, en bout de ligne, quand tu es un député de l'autre bord, que tu n'es pas un ministre, que tu n'es pas en charge de grands dossiers, ben tu es un peu un spectateur, ouais, qui attend que le temps passe. Tandis que moi, j'ai plus la chance de me faire valoir, de participer, d'être actif, de trouver des solutions, d'amener aussi le parti. Hey, avez-vous pensé à ça? Le sport, l'activité physique, c'est quelque chose que j'amène beaucoup. J'ai déjà eu des gains. T'sais, on m'a offert une question par semaine sur l'activité physique puis la santé dans le Parlement. C'est la première fois là, que ça arrive que des députés se lèvent pour challenger le gouvernement au pouvoir sur l'activité physique et la santé. Alors, tu sais, ça, c'est une latitude que je crois que tu n'as pas quand tu es l'autre bord puis que tu commences.
Pis justement, là-dessus, pourquoi le fédéral à ce moment-là? Tu sais, je regarde un peu ces priorités-là, santé, prévention, mm-hmm, saines habitudes de vie. Est-ce qu'on n'aurait pas plus d'impact sur un palier plus proche du monde?
Oui, c'est sûr, certain.
Donc, pourquoi le fédéral?
Bien, dans mon cas, c'est un message qui est tellement important pour moi puis que je crois que le Canada doit être un leader en matière de sport, d'activité physique. Puis je fais vraiment la distinction entre sport et activité physique. C'est-à-dire que sport, pour moi, évidemment, t'as Team Canada, là, t'en as plein, là. Il y a un rôle de structurer les sports à long terme. Mais pour la population en général, le sport, on le voit comme, un, c'est de l'élitisme, puis deux, c'est un loisir. C'est pas quelque chose qui est essentiel. L'activité physique est la solution à peu près toutes les maladies chroniques présentement qu'on voit. Et là, on a vraiment besoin de se positionner. Et quand je jasais avec Van Coverden cette semaine, justement, je disais, il est plus que temps qu'on arrête de dire le sport, c'est quelque chose, puis la santé, c'est quelque chose. On doit coller les deux. Et c'est-à-dire que là, je lui disais, il faut qu'on se rencontre avec la ministre de la Santé puis qu'on fasse le pont entre l'activité physique, la santé, puis la prévention, puis les maladies chroniques. Et ça, c'est, je crois, si le fédéral se positionne pour dire que l'activité physique est une solution importante à nos problèmes de santé chronique dans la société, ça va envoyer un message au provincial. On le sait qu'il y a du partage de budget avec les provinces, notamment sur la santé.
Et de l'empiètement sur nos juridictions aussi, mais bon, c'est une autre histoire.
Mais ça, le respect, tu sais, nous autres, les conservateurs, on est beaucoup sur le respect des provinces au niveau de leur juridiction. Par contre, un rôle de leadership doit exister. Et je crois que c'est important que le fédéral le fasse. Après ça, je vais aller jusqu'au municipal. Je crois qu'il y a un rôle énorme au municipal aussi de faire la promotion de l'activité physique parce que c'est une politique de proximité. Et si une ville est capable de faire bouger son monde, est capable d'avoir un résultat dans sa région ou dans sa ville sur le fait que les hôpitaux sont moins fréquentés, que les jeunes et les adultes bougent plus, et ça l'envoie aussi un message au provincial, et la santé, c'est une juridiction provinciale, pour dire « Hey, on doit bouger ».
J'ai saisi que tu as parlé de budget, budget en santé, budget en activité physique. Il y aura le budget du, ouais, gouvernement qui va être déposé.
Le 4 novembre au soir.
Le 4 novembre au soir, comme le disait si bien Jean Chrétien. Comment voyez ça du côté des conservateurs? Est-ce que vous êtes déjà à vous dire « Hey, écoute, on peut pas voter pour ce budget-là, le déficit va être monstrueux ».
C'est sûr et certain qu'il va falloir l'analyser comme il faut. Ce qui est décevant un petit peu depuis le début, c'est qu'on nous dit « J'espère que les conservateurs vont s'aligner avec nous et travailler ensemble pour faire avancer le Canada ». On est comme « On aimerait bien ça, au moins savoir c'est quoi vous voulez qu'on s'aligne avec, parce que là, il n'y a pas de budget. On l'a demandé au mois de mai, on l'a demandé au mois de juin, on l'a demandé au mois de septembre. Là, on est en octobre, puis ils disent « Oh, mais ça s'en vient au mois de novembre ». C'est une des premières fois qu'un gouvernement dépense de l'argent sans passer par le Parlement. Aucune critique possible. on s'attend à ce que ça soit au moins deux fois pire que dans le temps de Justin Trudeau, qui est pas, à mon avis, qui est très critiquable sur à quel point l'argent a été dépensé.
Allez-vous essayer de déclencher les élections?
De ça, c'est un, tu demandes à un député qui a quatre mois dans la cravate, c'est pas moi qui va prendre la décision. Mais certainement que dans toutes nos discussions, on analyse beaucoup c'est quoi les projections dans lesquelles on s'en va. Le directeur parlementaire du budget cette semaine, il disait que c'était un rythme insoutenable puis qu'on allait frapper un mur. Puis ça, là, c'est pas quelqu'un qui est partisan, là. C'est quelqu'un qui est neutre, qui travaille avec tous les gouvernements depuis longtemps puis qui dit « là, gang, là, ça va pas. » Fait que c'est sûr que nous, on est comme « quand est-ce que vous allez le sortir, le budget? Pouvez-vous au moins nous aider à savoir vers où vous en allez parce que c'est l'argent des gens que vous dépensez? » Puis tu sais, quand je reviens à « c'est quoi être un député? » Tu sais, c'est le service, puis moi, je suis très clair là-dessus, puis je suis vraiment, tu sais, avec une grande révérence, comme je vous disais, c'est de Montmorency-Charlevoix à Ottawa, c'est des circonscriptions, c'est les gens vers Ottawa, c'est l'argent du monde qui est dépensé. Puis quand tu vois la vitesse à laquelle il la dépense, puis sans passer par l'imputabilité de passer par le Parlement, au moins pour nous dire c'est où que ta dépense, puis qu'on puisse dire, bien, écoute, qu'est-ce que tu fais là avec ça, ou OK, bon coup là-dessus, mauvais coup là-dessus, je trouve que c'est un grand manque de respect envers les voteurs. C'est notre rôle d'être là pour les représenter.
Puis en même temps, on est dans une crise sans précédent par rapport aux États-Unis. Donc, mm-hmm. Des dépenses qu'on fait notamment pour le développement économique, ouais. Des grands projets, des choses qui auraient probablement été faites aussi par un gouvernement conservateur.
Ouais.
L'économie est importante, mais je voulais quand même aussi poser une question sur la contestation judiciaire de la loi mm-hmm. sur la laïcité.
Ouais.
Vous avez appuyé une motion la semaine passée du Bloc québécois sur la question. Bon, la contestation judiciaire porte surtout sur l'utilisation de la clause dérogatoire, mais mm-hmm. la laïcité dans le reste du Canada, c'est pas quelque chose qui résonne beaucoup. C'est souvent très mal compris, même, j'ai envie de dire, il y a un fossé un peu culturel entre le Canada et le Québec sur cette question-là. L'appui à cette motion-là du Bloc québécois, est-ce que ça a fait l'objet de gros débats au caucus avant de décider de voter pour?
Je pense que ça a été important de l'amener de la bonne manière. OK, le Canada n'est pas, comme tu le dis, pas tout le monde égal en point de vue de leur vision par rapport à cette clause-là et tout ça. Par contre, au niveau du fait que ça fait partie de la Constitution canadienne, c'est là que c'est venu jouer. On doit respecter la Constitution canadienne et on est un parti de respect de l'autonomie des provinces.
Mais ça, je pense pas que ça fait un gros débat, le bout sur la clause. Mais sur la question de la laïcité, est-ce qu'il y a des débats animés au sein du Parti conservateur sur le fond des choses, la loi québécoise sur la laïcité?
Mais comme je te dis, on n'est pas allé jusque-là. Nous autres, c'était vraiment, est-ce qu'on veut commencer à critiquer la Constitution? Est-ce qu'on veut retirer le pouvoir aux provinces d'utiliser quelque chose qui est dans la Constitution? Puis si la réponse, c'est non, bien, le vote, on arrête de réfléchir plus loin. Le vote, il est fait. Nous, on veut que les provinces aient leur autonomie et on veut respecter la Constitution canadienne. Donc, tu sais, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, là. Rendu là, parce que tout le monde au pays va avoir son opinion, puis chaque province va avoir sa couleur, sa saveur, puis là, si on s'embarque là-dedans, on n'y arrivera pas. Et là, on s'est dit, OK, non, nous, on le dit en campagne, et on est encore le même parti. Les provinces ont le droit de... Une confédération, c'est une alliance, c'est une force à travailler ensemble pour être meilleur tout le monde ensemble. C'est ça, la confédération. Alors, si on commence à pas respecter ce qui a fait en sorte qu'on est venu à travailler ensemble, on a un grave problème. Donc, nous, on a dit non, on respecte la Constitution, excuse-moi, et on travaille pour l'autonomie des provinces, point barre. Le vote est fait.
Gabriel Hardy, merci beaucoup.
Merci à vous autres. C'est super
quand
le fun.
Quand t'es de passage à Québec, tu m'en fais signe?
Ben, c'est...
Ça va nous faire plaisir de jaser avec
toi. Je suis
là toutes
les fins de semaine. Je suis dans la circonscription pas mal.
Excellent.
Puis sinon, ben, on alterne au Parlement. Oui. On est là trois semaines, une semaine ici, trois
exactement.
Semaines, une semaine ici. Fait que, anytime, vous voulez
parfait.
M'avoir, ça va me faire plaisir.
Excellent. Fais-nous signe. Puis bravo pour ton passage en politique, je vais le dire comme ça.
Merci.
Le goût d'être député, j'ai énormément de respect pour les gens qui se lancent en politique.
T'es très gentil. Merci cool. À tout le monde.
Merci, Gabriel. On s'en va de ce pas rejoindre au bout du fil Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome d'enseignement, la FAE. Madame Hubert, comment allez-vous?
Je vais très bien. Au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est un petit peu plus compliqué ces temps-ci.
Ben, écoutez, si au niveau personnel, vous allez bien, je suis super heureux parce que moi, je souhaite le bonheur à tout le monde personnellement. Je comprends qu'au niveau professionnel, il y a une petite guerre ouverte avec le gouvernement. Tu rêvais à ça?
Vous avez pas rêvé, effectivement. On nous annonce des prochains mois, des prochaines semaines qui risquent d'être assez compliquées là, au niveau de nos relations avec... le gouvernement actuel, mais bon, on va prendre chaque combat un à un comme on l'a toujours fait par le passé.
Qu'est-ce qui vous fâche le plus? Est-ce que c'est le projet de loi de M. Jean Boulay qui va permettre du service essentiel et diminuer l'impact d'une grève pour les syndicats ou c'est le fait que le gouvernement vient jouer dans vos cotisations?
Bien, c'est l'ensemble de l'œuvre, parce qu'en ce moment, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est d'affaiblir le mouvement syndical par tous les moyens possibles et impossibles. Donc, d'un côté, M. Boulet dit « je fais pas ça contre les syndicats, je fais ça pour les syndiqués ». Mais pour les syndiqués, on leur coupe des leviers pendant leurs négociations quand on s'attaque à leurs droits de grève. Il fait des choses pour les syndiqués, mais en ce moment, partout dans la fonction publique, on coupe des postes sans avoir planifié le travail qu'il faudrait faire, sans avoir revu les processus. Donc, un peu partout, on s'attaque aux syndiqués, mais on fait semblant qu'on fait ça pour eux. Donc, c'est choquant, mais c'est l'ensemble de l'œuvre, parce que ce que le gouvernement cherche à faire, je le répète, c'est d'affaiblir le mouvement syndical par tous les moyens.
Qu'est-ce qui motive ces mesures-là, ces intentions gouvernementales-là, à votre avis, Mme Hubert?
Bien, je pense qu'on a un gouvernement qui souhaite faire taire les gens qui s'opposent, les voix qui s'opposent, puis on va le nommer, là, la FAE a été beaucoup citée pour des recours, par exemple, devant les tribunaux. On dirait que pour le gouvernement, c'est inacceptable que des groupes remettent en question des lois, comme si dans notre démocratie, c'était malvenu de s'adresser aux tribunaux quand on se questionne, quand des droits sont attaqués par des lois, qu'on puisse pas les remettre en question. Nous, on n'a jamais dit qu'on avait raison. On a soumis la question aux tribunaux. On verra ce que le tribunal en dit, mais la CAQ a fait des choix de mettre dans une loi nos membres qui sont en ce moment lésés parce qu'il y a de la discrimination à leur égard. C'est des femmes qui ont plus de promotion, ils n'ont plus moyen de devenir direction d'école, ils ne peuvent pas changer de centre de service scolaire non plus, donc elles ne peuvent pas déménager dans d'autres régions. C'est de ça dont on parle. Puis là, on nous dit, ben, on veut plus de recours. On veut pas que de l'argent serve à faire de la publicité.
What?
Mais en ce moment même, le gouvernement fait de la publicité contre les médecins dans l'espace public.
Non, c'est un bon point que vous amenez, honnêtement. Je suis porté à être très d'accord avec vous. Je reviens sur la contestation de la loi sur la laïcité. Oui. On avait Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada, dans Montmorency-Charlevoix, qui nous parlait, qui disait le Parti conservateur a décidé de laisser l'autonomie aux provinces, donc ne viendra pas s'ingérer dans le processus. Pourquoi vous tenez tant à vous ingérer dans ce processus-là de la loi sur la laïcité si, justement, il y a des partis politiques comme le Bloc québécois ou le Parti conservateur du Canada qui laissent cette légitimité-là au gouvernement?
Bien, nous, en fait, là, on n'est aucunement dans une logique de droit des provinces ou de sa place dans la Constitution et tout ça. On n'est pas dans ça du tout, du tout. On est dans une logique on passe une loi qui va au-delà du consensus Bouchard-Taylor de l'époque. Là, on se rappellera, la laïcité, au départ, on disait interdiction de signes religieux pour les policiers, les juges, les gardiens de prison, ainsi de suite. Par le projet de loi, on est venu ajouter une catégorie de gens dans ce projet de loi-là, c'est les profs et les directions d'école. Moi, je représente des profs. Alors, à ce moment-là, il y a des femmes qui nous disent « je suis discriminée dans un motif qui est protégé par la charte », n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Comme je disais, pas de promotion, je peux pas changer de centre de service. Donc moi, je suis dans la défense des droits de mes membres. Les membres se tournent vers nous et nous disent comment vous allez nous défendre. Et la seule façon de faire, c'était d'attaquer la loi, ce bout-là de la loi devant les tribunaux, parce qu'un arbitre dans un grief, si on était allé faire un grief comme on le fait d'habitude dans plein d'autres cas, l'arbitre aurait dit c'est dommage pour les personnes, mais l'employeur a agi comme il agissait parce qu'il y a une loi. Puis dans notre pays, ouais. Là, quand une loi est adoptée, elle est réputée valide tant qu'un tribunal ne l'a pas invalidée. Donc, on est devant le tribunal essentiellement pour contester ça parce que c'est la seule porte qu'on avait pour protéger ces membres-là. Puis, à sa face même, la loi, elle est discriminatoire puisqu'il a fallu utiliser la clause dérogatoire.
Je comprends, Mme Hubert. Je comprends, Mme Hubert, mais en même temps, là, si je passe un sondage aux syndiqués de la FAE, la très, 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 très grande majorité serait pour la loi sur la laïcité. Donc, d'utiliser leur argent de cotisation pour aller à l'encontre de leurs désirs, comment vous trouvez ça? Moi, ça m'étonne, et je vais vous le dire, ça m'étonne négativement là, envers votre organisation.
Je comprends votre point, parce que c'est sûr que de façon individuelle, on peut tous avoir notre opinion sur la laïcité et sur la loi en général. Puis je vais vous donner l'autre argument, c'est notre démocratie, ce n'est pas que chaque individu dans un salon qui a une opinion. Notre démocratie aussi, c'est d'élire des représentants qui viennent dans des instances et qui débattent. De la même manière qu'on élit des députés, puis qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, puis qu'il y a des décisions qui se prennent. Est-ce que je suis toujours d'accord avec l'ensemble des décisions? Non. Notre démocratie, elle est aussi imparfaite. Dans le cas qui nous occupe, On a des instances depuis 2013. Donc, d'abord, un congrès qui avait pris une résolution qui a dit « on comprend qu'il y a eu une consultation » et c'est toujours à ça qu'on nous ramène. Hein. Il y avait une consultation à l'époque. Les membres, en débattant, se sont dit « on comprend qu'il y a eu que les gens disent on n'est pas à l'aise avec les signes religieux, mais en même temps, il faut défendre le droit au travail, faut défendre les droits acquis des gens qui le portent en ce moment dans nos milieux de travail. » Et on a redébattu dans nos instances où il y a des représentants de tous nos syndicats affiliés au fil du temps. Le dernier débat qu'on a eu, c'était en janvier 2025, et les gens ont dit « allons de l'avant, on comprend, même si individuellement des membres peuvent ne pas être confortables, ça reste qu'on défend des membres qui sont lésés. » Et si on allait en Assemblée générale à chaque fois qu'on lève un grief puis qu'on faisait l'étude du cas de dire « Monsieur un tel, Madame un tel, voici son dossier, on pense que ça va coûter 50 000, êtes-vous d'accord d'aller de l'avant? » Vous comprendrez qu'on ne pourrait plus faire notre travail de défendre les droits de tout le monde. On a une obligation de défendre tout le monde. Donc, ce cas-là n'est pas vraiment différent de plein d'autres cas où un syndicat va de l'avant pour défendre un membre, même si ça va coûter très cher, même si son dossier n'est pas très populaire. Des fois, on défend des membres de congédiement, puis c'est peut-être pas les meilleurs dossiers, mais on le fait quand même parce que c'est notre travail et on a une obligation envers tous les membres.
Je sors un peu de la question de la loi sur la laïcité pour revenir. Vous parliez de publicité, justement, de dépenses publicitaires. Et vous disiez, bon, le gouvernement lui-même dépense en publicité contre, par exemple, les médecins là, en ce moment. C'est quoi vos obligations de transparence en matière de dépenses par rapport notamment à de la publicité, mais ça pourrait être d'autres sortes de dépenses? Parce que le gouvernement, lui, il est obligé là, de montrer quelles dépenses il a fait. Les partis politiques aussi doivent faire preuve d'une certaine transparence. Est-ce que les syndicats aussi devraient auraient avantage à rendre davantage public, être plus transparent avec ce qui est fait avec les cotisations syndicales?
Bien, à la FAE, je ne peux pas parler pour toutes les organisations, mais à la FAE, nos prévisions budgétaires chaque année sont ventilées et déposées à notre instance, là, donc on appelle ça notre conseil fédératif. Il y a des représentants de tous les syndicats affiliés qui sont là. Ça va se passer d'ailleurs en octobre prochain. On va déposer, on ouvre les livres. Chaque ligne est expliquée. Les membres peuvent poser des questions sur l'ensemble du document. Et le document, il n'est pas juste présenté pour information. Là, les membres l'adoptent. C'est donc dire qu'ils peuvent remettre en question des montants, puis les budgets de publicité, par exemple, mais les montants associés à des recours devant les tribunaux, tout ça est ventilé dans les budgets. Nos membres peuvent poser des questions. On va arriver en décembre, on va déposer nos états financiers qui sont faits par des firmes comptables externes. Donc, ça, nous, on le fait. C'est déposé, remis, expliqué même par la firme comptable. C'est même pas nous qui le présentons. Encore une fois, les gens peuvent poser des questions. Et on va revenir en mars, avril, autour de ces eaux-là, avec nos révisions budgétaires. Donc, on va montrer ce qu'on avait budgété en octobre, où on est rendu, pourquoi on a tel ou tel résultat, pourquoi on a besoin d'ajuster les chiffres. Et encore une fois, c'est nos représentants des syndicats affiliés qui vont adopter ce budget-là révisé.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas élargir un peu plus loin seulement parce que là, vous me parlez de transparence à l'interne avec vos cotisants, et c'est bien normal, mais souvent, vos dépenses font l'objet d'articles de journaux. Quand je dis « vos », je ne parle pas de la FAE nécessairement, mais de syndicats en général, font l'objet de coulages dans les journaux, certaines dépenses qui ont fait les manchettes. En plus, les syndicats, vous jouez un rôle dans le débat public, un rôle qui est presque politique. Là. Vous vous retrouvez même en contestation judiciaire en ce moment d'une loi, là, une loi forte du gouvernement. Est-ce qu'on ne devrait pas élargir la transparence plutôt que d'apprendre ça dans les journaux? Des fois, peut-être pas toujours à votre avantage, j'ai envie de dire.
C'est clair qu'il n'y a pas... Je connais pas un chef syndical qui aime avoir à répondre de questions délicates dans les médias le lendemain... d'une information quelconque qui a été coulée dans les médias, là, c'est clair, ça fait pas l'affaire de personne. Puis honnêtement, comme chef syndical, on se remet en question aussi quand ces éléments-là arrivent. Mais je vois pas pourquoi des organismes qui rendent compte aux gens qui cotisent auraient à rendre des choses sur la place publique. On n'exige pas la même chose du Conseil du patronat ou de d'autres organismes patronaux qui font pourtant énormément d'activités politiques aussi. Donc, pour nous, en ce moment, c'est de dire pourquoi on exigerait ça d'un groupe et pas des autres? Pourquoi on mettrait un double standard si ce n'est que d'affecter et de limiter les pouvoirs d'action d'un groupe en particulier? Puis on pense que dans le débat actuel, là, déjà, on a pris des mesures contre notamment le droit de grève. Ben, on pense que le déséquilibre en ce moment, là, il est à l'avantage des patrons, il n'est pas à l'avantage des syndiqués, quoi qu'en dise M. Boulay.
Madame Hubert, vous avez parlé, vous n'aimez pas aller au public répondre à des questions plus difficiles, mais j'en ai une pour vous.
Allez-y.
Êtes-vous le mouton noir des syndicats? Parce que moi, quand je parle à Éric Gingras de la CSQ en entrevue, puis je lui dis « Ouais, quand la FAE fait la fameuse grève des enseignants, ça vous a fait mal. Hein? » Puis là, il patine, puis il sait pas trop comment répondre à ça. Est-ce que vous êtes le mouton noir des centrales syndicales?
Je pense pas qu'on est le mouton noir, mais je peux vous dire, on va avoir 20 ans cette année. Hein? Puis l'histoire de la FAE, c'est une histoire de militants militantes qui se sont désaffiliés en 2006, parce que justement, on souhaitait se démener un peu plus, mener des luttes, un syndicalisme de combat. Je vous dirais, c'est ce qui nous caractérise depuis notre fondation. Donc, est-ce qu'on est un mouvement peut-être plus militant qui ressort du lot des fois? Je vous dirais oui. Quand on brasse un peu, ben c'est sûr qu'on s'attire les foudres des fois, puis on se retrouve sous les projecteurs peut-être plus que d'autres groupes. Mais ça fait partie du jeu quand on veut mener un syndicaliste de combat comme celui de la FAE. Ben des fois, on se retrouve à devoir répondre à des questions plus délicates ou être dans des situations comme pendant la grève générale illimitée, puis comme dans le recours sur la loi 21. Ben on se retrouve à devoir rendre des comptes aussi de tout ça. Mais l'entente, elle est là avec les centrales puis les autres fédérations. Je peux pas dire qu'on est isolé ou qu'on est pris à partie. Le gouvernement tente de faire ça en ce moment. Diviser pour mieux régner puis isoler des groupes, mais je pense que le mouvement syndical est plus fort que ça. On a l'habitude de travailler ensemble pour le bien collectif. Je pense que ça va se poursuivre.
Ben, en terminant, est-ce que c'est la CSQ d'abord qui vous tient rigueur de vous être désaffilié puis d'avoir parti votre propre centrale syndicale?
Bon, vous savez, le temps passe. C'est sûr que les scissions dans des organisations, ça laisse toujours des traces un certain temps. Le temps passe. On apprend à travailler ensemble. On apprend à chacun se laisser l'espace. Donc, je ne sens pas non plus d'animosité, particulièrement si je parle de l'autre fédération de profs, là, dont on s'est désaffilié à l'époque. Le temps a passé, le divorce est derrière nous, puis on regarde comment on peut mener ensemble des luttes. On a souvent beaucoup d'intérêts qui sont communs de toute façon, mais en même temps, on fait les choses chacun à notre manière. Donc, quand on réussit à se rejoindre, c'est tant mieux. Puis quand on pense qu'il faut faire les choses différemment, ben on répond chacun au mandat que les membres nous donnent, puis on y va chacun dans notre direction, mais je pense dans le respect des mandats que nous avons chacun de notre côté. Là.
Madame Hubert, merci beaucoup pour votre présence à l'émission On en jase ce midi, puis j'en conclue avec le fait que vous êtes maintenant des parents séparés qui s'entendent bien avec la CSQ. J'aime s'entendre ça.
C'est ce qu'on essaie de faire.
Excellent, merci beaucoup, au plaisir de se reparler.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Merci, au revoir. Alors, j'aime beaucoup les gens qui ont cette franchise-là. D'être en onde, on pose des questions, ils répondent, puis d'être assumé. On a le droit d'être en désaccord ou en accord avec ce que Mélanie Hubert dit, mais elle l'assume.
Oui.
Puis elle l'assume à 100%.
Dans sa métaphore sur les parents séparés, il aurait juste fallu ajouter après « pour le bien des enfants ».
Ouais,
dans
c'est
une séparation, c'est le bien des enfants.
Exactement. Voilà. Mais parlant de bien des enfants, par exemple, il y a David qui nous écrit quelque chose de très, très, très intéressant. Il dit « ouais, il dit, les combats de la FAE, ouf, le mois de grève a scrappé mon enfant autiste et j'ai eu de la misère pendant 6 mois. » Puis en effet, j'ai de l'empathie pour ces parents-là qui, malheureusement, ont vécu avec un manque d'accompagnement pour leur enfant. Et c'est vrai, t'es pour avoir travaillé avec des clientèles, justement, particulières, quand tu arrêtes un accompagnement, quand tu arrêtes un traitement, c'est pratiquement du x6, x7 que ça te prend délai pour reprendre. Alors, c'est vrai que ce mois de grève-là fait énormément mal à nos enfants. Puis, on fait mal à nos enfants défavorisés.
C'est les plus vulnérables.
Oui, les plus vulnérables.
Puis même si tu appuies certaines revendications des enseignants, à un moment donné, les enfants, il me semble que ça, c'est intouchable.
Ouais. Non, exactement. Donc, c'est toujours là, moi, que j'ai eu de la misère avec le mouvement de grève de la FAE, sans l'ombre d'un doute. Sur la contestation, loi sur la laïcité, tu sais, je continue à penser que... Et la réponse de Mme Hubert se tient, là. Mais moi, personnellement, je continue à penser que... C'est fait justement parce qu'on est une organisation qui est très militante.
Bien, il y a ça. Et il y a aussi toute une question de est-ce que de passer par les tribunaux, c'est vraiment ça qui favorise une bonne relation avec le gouvernement? Oui, il y a de la confrontation, mais à partir du moment où tu tournes vers les tribunaux, c'est comme si tu viens un peu contrecarrer, t'arrêtes la discussion. Moi, c'est toujours quelque chose avec quoi j'ai eu plus de difficultés. Maintenant, ils ont décidé, ils ont fait le choix de défendre certains membres qui étaient touchés directement par cette loi-là, parce que ça a eu des impacts, il faut le dire. Il y a des enseignantes qui, effectivement, puis elle le décrivait, qui sont bloquées maintenant.
À Québec, on le ressent moins, mais à Montréal, c'est une problématique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, il manque tellement d'enseignants que c'est vrai pareil que s'en priver de 30, 35, 40 à Montréal, ça va faire une différence.
Elle le dit, puis c'est là le bout un peu plus militant. Elle dit que c'est discriminatoire comme loi. Puis la preuve, c'est qu'on doit se tourner vers la clause dérogatoire. Je veux juste dire, se tourner vers la clause dérogatoire, c'est pas une preuve que c'est discriminatoire. C'est juste un recours que les provinces ont. Mm-hmm. Parce que des fois, effectivement, la vision du vivre ensemble peut entrer en contradiction avec certains droits de religion. Ça arrive, hein, c'est la vision plus québécoise. Bref, c'est un grand débat, mais c'est très politique, là. C'est un combat politique là, que l'AFA fait. Là.
Très politique. Et d'ailleurs, super texto de Pierre-Luc qui dit « J'ai seulement 35 ans, mais j'ai tellement subi les grèves avec le temps que je n'ai plus aucune empathie envers les mouvements syndical. Et ça, c'est le grand malheur des mouvements syndicaux, justement, de ne pas avoir choisi les bons combats. Ils ont beaucoup trop de pouvoir avec beaucoup trop de bureaucratie à l'image des gouvernements qu'ils combattent. C'est un autre fait. J'ai pas le choix d'être d'accord avec Pierre-Luc que c'est devenu des énormes machines.
Oui, puis il y a pas mal de monde qui trouve que c'est finalement une élite aussi.
Clairement.
D'avoir comme ça des syndicats avec... Puis évidemment, dans les médias, on entend souvent les questions de salaire, de conditions de travail, des gens qui travaillent dans les syndicats. Puis ça vient chercher les gens.
Oui, vraiment. Antonine Iaccarini, merci d'avoir été avec nous pour cette première heure d'On en jase. On refait ça demain?
À demain.
Excellent, on refait ça demain. Après la pause, Mathias Turcotte était au point de presse de Sam Hamad ce matin où il a présenté Pascal Hull, une travailleuse sociale qui va représenter Leadership Québec dans Saint-Sauveur-Saint-Roch. Alors, restez avec nous. On vous présente le tout après cette courte pause de ta Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h. On en jase.
On en jase jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. On va faire une petite tournée de l'actualité, une manchette importante. Également, Mathias va nous parler de Sam Hamad et de sa nouvelle candidate dans Saint-Roch, Pascal Hull. Et on va avoir la procureure qui va être avec nous, la procureure de son nom, Maya Ducasse, Haïti. Ça paraissait-tu, je vais le chercher? Après, ce qui n'a pas paru. Donc, tu vas venir nous parler là, justement de ces cas de violence, ces plaintes croisées des hommes qui sont violents avec leurs femmes et qui disent « Ben non, c'est elle qui est trop violente. » Mais avant tout ça, pas le choix de vous parler du face-à-face. C'est le 2 octobre prochain, c'est ce jeudi, entre Sam Hamad et Bruno Marchand sur nos ondes à 16h dans Gravel dans le retour. Ça va être animé par Denis Gravel. On va discuter de 5 grands thèmes, le transport et la mobilité, l'économie, la relation avec les gouvernements, itinérance et sécurité et Québec dans 15 ans. Donc soyez à l'écoute des 16h sur les ondes de Boulevard 101 pour ce face-à-face Hamad Marchand.
Puis de ce qu'on m'a dit aujourd'hui, ce matin, lors du point de presse justement de Sam Hamad, M. Hamad est très excité pour le face-à-face de cette semaine.
Ça veut dire qu'on va avoir un Sam Hamad avec le couteau entre les dents qui est prêt enfin à parler de son programme électoral. Mathias, avant de passer justement à la conférence de presse de ce matin, grosse nouvelle, on dépense 22 millions pour le tramway.
Oui, exactement. Justement, on parlait de Sam Hamad. Sam Hamad qui avait fait la demande à Bruno Marchand d'arrêter toute dépense pour le tramway. Ça avait tout de suite été refusé du côté d'administration Marchand. Jonathan Julien en avait comme rajouté en disant « Non, on n'arrête pas le projet de tramway. » Eh bien là, on voit très bien qu'on n'arrête pas le projet de tramway, alors qu'on a fait l'acquisition d'un terrain situé en bordure du boulevard Hochelaga à Sainte-Foy pour 22,2 millions du côté de la ville de Québec. C'est le deuxième plus gros transfert d'argent, la deuxième plus grosse dépense pour le tramway depuis le début du projet pour la ville de Québec. Le terrain qui a été acquis à la Société québécoise des infrastructures qui était qui possédait justement le terrain. Donc c'est 22 millions dépensés pour ce nouveau terrain.
Sa maman a présenté sa nouvelle candidate dans Saint-Roch, Pascal Hull. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qui est Mme Hull, Mathias?
Madame Hull, tout d'abord, c'est une travailleuse sociale. Donc, c'est quand même une candidate qui a à la fois un bac et une maîtrise en service social, justement. Puis, du côté de sa maman, on est arrivé ce matin. On a présenté cette candidate-là qui était finalement la dernière candidate pour compléter la grande équipe de Leadership Québec. Donc, enfin, Leadership Québec a ses 21 candidats. Le parti a donc présenté sa candidature officielle pour la campagne électorale qui a déjà commencé depuis quelques semaines maintenant. Elle va remplacer Napoléon Wu, que pour des raisons que tout le monde sait très bien, a été retiré du parti Leadership Québec. On lui a demandé est-ce qu'elle habitait le secteur où qu'elle se présentait, donc Saint-Roch, Saint-Sauveur. La réponse a été non.
Mais compte tenu qu'elle travaille sociale, elle doit connaître les enjeux de Saint-Roch.
Ben c'est ça. Ben on ose espérer, en tout cas, du moins, on lui a demandé.
Ben en fait, je connais les enjeux, là, comme tout le monde sait, il y a des gros enjeux à Saint-Roch, Saint-Sauveur présentement. Alors, il y a les enjeux d'itinérance.
OK. Enjeux d'itinérance.
Tu t'attendais que ça continue, hein?
Ouais,
lorsqu'on lui a demandé les enjeux, ça a été il y a des enjeux d'itinérance. La réponse, c'est fini là. On n'a pas plus développé. Très, très vague.
OK. Il y a des enjeux d'itinérance à Saint-Roch. Ouais, je pense
Je pense que tout le monde peut s'entendre pour ça.
Exactement.
Fait que la question se pose quand même. Elle se présente là, elle n'habite pas là. Bon, on lui demande des enjeux. Elle développe pas particulièrement.
Elle doit avoir un plan de match.
Ben, c'est ça. Connaît-elle vraiment le secteur? C'est quoi son plan d'action? On lui a demandé.
Bien, écoutez, premièrement, là, je pense que je vais m'imprégner de Saint-Roch, Saint-Sauveur durant les prochaines semaines. Fait que je vais aller rencontrer les gens. Je pense que c'est la première étape. Puis ensuite, on va regarder pour trouver des solutions. Je veux travailler avec les citoyens. Puis en fait, je veux travailler aussi là, avec les ressources communautaires puis tous les intervenants du milieu.
Demain, là, on va présenter notre programme, puis on va donner notre vision, tout le monde ici, de Saint-Roch.
OK. Fait que c'est demain qu'on va connaître ça de la bouche de Sam Ahmad.
Oui, exactement. Mais on peut... De ma part, je trouve qu'il manque un peu de conviction.
Ben, il manque un peu de viande autour de l'os.
Oui, on présente une nouvelle candidate, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Ouais. C'est un des secteurs de Québec, probablement le secteur de Québec qui a besoin du plus d'amour. Et du côté de la nouvelle candidate, on n'arrive pas vraiment avec de contenu. Sam Ahmad qui embarque par-dessus, d'ailleurs, pour venir...
présenter demain. Donc, on aura plus de contenu demain. Sûrement qu'on va t'envoyer Mathias aller écouter ce plan-là. Mais là, c'est un faux départ pour Sam Ahmad dans Saint-Roch. Napoléon Wu, ça l'a fait la manchette. Qu'est-ce qu'il avait à dire, notre ami Sam, là-dessus?
Ouais, mais ce qui est drôle dans cette réponse-là, c'est que la question était adressée à Mme Hull. Donc, c'est vraiment... Ouais. On a demandé à Mme Hull est-ce qu'elle sentait qu'elle partait avec une difficulté supplémentaire, avec un pas de recul après toute la situation par rapport à Napoléon Wu. Et au lieu de laisser sa candidate répondre, Sam Ahmad s'est empressé de prendre le micro.
Bon, en fait, là, attention, là, c'est un parti politique qui se présente avec un programme pour l'ensemble des citoyens, incluant Saint-Roch. Là, les gens à Saint-Roch vont nous entendre. Les commerçants à Saint-Roch vont nous entendre, puis ces gens-là vont voir chaque parti politique, qu'est-ce qu'ils présentent. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est pas un individu seulement, c'est l'équipe ensemble, avec notre programme, c'est comme ça qu'on se présente.
OK, mais là, on a un programme, c'est comme ça qu'on se présente. Moi, jusqu'à présent, je suis bien d'accord avec ça, même que moi, je suis d'accord qu'il y ait des partis politiques au municipal, parce que ça donne une meilleure ligne, ça donne un meilleur alignement. Mais si on avait présenté Napoléon Wu qui est contre les organismes communautaires, puis là qu'on présente une travailleuse sociale qui travaille avec les organismes communautaires, est où la ligne?
Ah, c'est un peu différent, puis c'est justement ça. On est un parti, puis vous êtes un parti qui avait choisi Napoléon Wu comme candidat. Vous êtes un parti qui l'avait mis d'avance, sachant très bien sa position sur l'itinérance. Comment qu'on veut rattraper ça? Puis d'ailleurs, j'ai demandé à M. Ahmad pourquoi on avait choisi de présenter M. Wu au lieu de Mme Hull initialement.
Parce que c'est ça qui est arrivé. Puis là, on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
OK, c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'ai vraiment hâte au plan de demain. Moi, je veux toujours laisser la chance aux coureurs. je crois vraiment que Sam Ahmad peut être une personne qui va venir justement défier Bruno Marchand, va venir l'envoyer dans le coin, faire en sorte que certaines politiques de Bruno Marchand qui ne plaisent pas aux gens, dont justement les pistes cyclables et la mobilité fois 1000, ressortent dans le débat, mais à l'heure actuelle, malheureusement, parce que c'est ça qui est ça. Non, c'est pas ça qui est ça. Monsieur Wu a fait mal paraître Leadership Québec dans son entièreté.
Oui, puis il va falloir qu'il y ait du concret, puis du bon concret demain dans ce fameux programme-là pour Saint-Roch, parce que du côté de Sam Ahmad, on manque de concret, on manque de différentes annonces. Puis justement, la semaine dernière, ça a été silence radio du côté de Sam Ahmad, côté annonce justement. Mm-hmm. Et on lui a demandé pourquoi justement il n'a pas été autant présent, autant affiché pour faire des annonces au cours de la dernière semaine. Est-ce qu'il a perdu une semaine électorale au final?
Expliquez vos idées à la population.
On n'a rien perdu. Et la semaine passée, on a fait 20 entrevues. Une avec vous. Ça va. Chaque étape, elle a son. On n'a pas fait des annonces de kilométrage d'asphalte. Hein? 300 km d'asphalte. Puis, essayez de regarder dans l'histoire du Québec. C'est Maurice Duplessis qui annonçait les routes d'asphalte avant les élections. Bien, j'aime mieux pas faire des annonces d'asphalte, puis faire des entrevues avec vous. 20 entrevues en passant avec les collègues. Je n'étais pas tout seul. Vicky, Steven, Dan Moisan, on a tous fait des entrevues pour parler des éléments qui étaient importants. Puis, tu sais, faire une annonce d'asphalte, là, moi, j'aime mieux pas. J'aime mieux pas parce que ça, c'est la vieille politique. Maurice Duplessis.
Vois-tu, on a des réactions par texto, mais deux là qui deux tendances, je dirais, puis je vous les lis. D'abord, Manon, on dirait que Sam Ahmad a de la misère à suivre l'époque. C'est pas très 2025, sa campagne. Je voulais voter pour lui, mais là, et malheureusement, présentement, c'est justement cette fameuse hésitation-là qui se retrouve chez les gens qui ne devraient pas se retrouver pour M. Ahmad. Et on a également un auditeur qui disait hey, « En tant que média, il faut être fair, les boys. La dame vient de se présenter. Elle en remplace un autre. Ça fait juste 24 heures qu'elle est là. Elle peut pas tout connaître sur le parti. » Sais-tu quoi? Je suis entièrement en accord avec ça. La seule chose, c'est que je m'attends à ce qu'un candidat, quand il se présente en quelque part, qu'il ait au moins un plan de match et un plan d'attaque pour commencer. D'ailleurs, on va avoir Maggie Gagné dans quelques minutes, là, une candidate d'équipe Leadership Québec dans Val-Bélair. Je suis convaincu qu'elle va pouvoir nous décrire exactement ce qu'elle veut faire pour Val-Bélair. Puis elle était capable de le décrire au jour 1 parce que j'assistais à la conférence de presse qu'il l'a justement annoncé comme candidate dans Val-Bélair. Fait que c'est juste là mon attente.
Oui, puis je tiens à préciser, là, je suis entièrement d'accord du côté de Mme Hood. Elle commence à faire de la politique. C'est normal qu'elle soit pas nécessairement à l'aise derrière un micro non plus.
Clairement.
Faut le mentionner. Moi, ma critique, ça ferait plus du côté du parti. On sait qu'on s'en va présenter une candidate devant les médias. Je m'attends qu'il y ait peut-être un meilleur briefing de justement pour qu'elle soit préparée à répondre aux questions par rapport au plan de match de Saint-Roch.
En plein ça. Donc, on a la même attente, Mathias Turcotte. Au bout du fil, nous avons la procureure Maya Ducasse-Hatti qui travaille activement sur des cas de violence conjugale au tribunal. Madame Ducasse-Hatti, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous?
Ah, ça va super bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. On apprécie grandement. On veut parler avec vous, Madame la procureure, des problématiques de plaintes croisées. C'était justement dans le Journal de Québec, Journal de Montréal aujourd'hui, à l'effet qu'il y a des hommes violents avec les femmes qui décident de porter plainte parce que je vais l'imager justement à la dure. Quand ils ont donné 10 coups de poing à leur femme puis qu'elle réplique avec une claque dans la face, ben, ils disent qu'elle a été violente aussi envers eux. C'est bien ça qui se passe à l'heure actuelle?
En fait, lorsque il y a des plaintes on les appelle croisées, c'est-à-dire quand deux partenaires intimes, les deux dénoncent des infractions criminelles, là, c'est le phénomène qui est dénoncé aujourd'hui, en effet, dans les journaux.
Est-ce que c'est une stratégie de la part de ces hommes-là de porter plainte également contre la femme qui a été violentée pour tenter de faire changer le vent de côté ou diminuer justement les accusations qui peuvent être portées contre eux?
C'est sûr que le phénomène, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Donc, comme procureur, on a eu des dénonciations croisées là depuis longtemps. On voit toutefois là, certains dossiers, on n'a pas de statistiques éthique au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, mais toutefois, en effet, ça peut être utilisé par un des partenaires pour faire du contrôle coercitif, inciter la personne à ne pas dénoncer aux autorités là, les infractions criminelles à leur endroit.
Du côté là, de vous qui êtes procureur, comment faites pour démêler le vrai du faux là-dedans? T'sais, parce que là, je le disais au départ, là, vous avez compris que j'ai un certain biais. Là, je suis contre la violence aux femmes. Et nécessairement, quand je vois dans les médias qu'il y a des hommes qui sont violents envers les femmes, ça vient vraiment me chercher dans mes valeurs personnelles. Comment vous faites, vous, pour être capable de démêler le vrai du faux quand il y a des plaintes croisées comme ça? C'est quoi les enquêtes qui sont faites? Comment vous travaillez?
Bien, c'est vraiment là où l'enquête policière prend tout son sens. Donc, il y a vraiment une importance qui est faite au-delà, en fait, des verbalisations des personnes impliquées. Il y a toute une enquête qui doit se faire, donc vérifier s'il y a une présence d'un historique de violence, d'un historique d'appel donc aux policiers, des antécédents judiciaires des personnes impliquées. Des fois, c'est des craintes qui sont dénoncées par un les partenaires intimes, les conséquences importantes l'un envers l'autre, le contexte, l'intention derrière le geste posé. Ça peut être l'audio de l'appel 911, ça peut être l'enquête de voisinage. Donc, c'est différents éléments qui vont être enquêtés par les policiers. Par la suite, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, parce ne sont pas obligés de faire deux dénonciations lorsqu'ils n'ont pas ces motifs-là. C'est le directeur, c'est le procureur qui va justement là prendre en compte ces deux dossiers-là et faire son travail. Et avec l'ensemble des informations, parce que c'est l'analyse du contexte global qui va permettre là de déterminer qui est l'agresseur principal ou dominant. Ça va nous permettre de nous soutenir dans la prise de décision quant au dépôt d'accusation ou non.
Dans l'article du Journal de Québec, on parle beaucoup justement de femmes qui ont utilisé la légitime défense, c'est-à-dire que pendant qu'elles sont violentées, bien, répliquent pour se sortir justement du bourbier dans lequel ils sont. Est-ce que dans les plaintes croisées, ça représente une bonne proportion? Là, je sais que vous n'avez pas les statistiques, mais que ça représente une bonne proportion justement de la finalité de ces cas-là?
D'être à elle-même... accusé, c'est votre...
Ouais, non, si ça représente justement que, tu sais, on ne retiendra pas la plainte du conjoint violent parce que, justement, la femme, oui, elle peut y avoir donné un coup de poing, mais c'était de la légitime défense pour se sortir, justement, de la situation de violence qu'elle vivait.
Tout à fait. Mais, je vais vous donner un exemple marquant. Là, c'est un exemple d'étranglement. Donc, on aurait, par exemple, un individu qui a étranglé sa conjointe et lorsque les policiers interviennent sur les lieux, l'individu a son chandail déchiré, il y a des blessures sur le torse, ben c'est pas parce que ça s'explique en fait à travers l'infraction criminelle dont a été la victime. Donc elle s'est défendue de cet étranglement-là et elle a griffé son l'auteur de violence. Donc à ce moment-là, bien que l'individu soit blessé, ce n'est pas une infraction criminelle qui a été commise à son endroit, puisque c'est un geste qui est défensif qui est fait par la victime.
Est-ce que ça arrive souvent que même après l'enquête policière, on arrive à un constat qu'on n'a pas assez de preuves pour déterminer qui est réellement coupable dans cette histoire-là, ou habituellement on est toujours capable d'en cibler davantage l'un que l'autre?
Ça peut être difficile de déterminer qui est l'agresseur principal, mais on est face à des procureurs outillés, formés en matière de violence conjugale. Même chose là, avec une enquête policière exhaustive, on peut avoir dans le précis des policiers. Je vous donne un exemple. La victime, lorsque les policiers interviennent, elle est à l'extérieur, en plein hiver, sans son manteau. Donc, c'est des éléments du contexte de l'intervention qui vont être très importants pour pouvoir analyser l'ensemble de la situation. Ça va permettre justement de déterminer si on est plus face à un geste défensif ou de protection. Et on veut rassurer en fait les personnes victimes là, à l'effet qu'on prend ça très au sérieux, là, l'étude des dénonciations croisées.
Est-ce que vous constatez qu'il y a une montée de la violence conjugale au Québec?
En fait, j'ai pas d'expertise quant aux statistiques de la violence conjugale. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est qu'il y a un nombre important de dossiers qui sont dénoncés. Je pense qu'on parle depuis la pandémie qu'il y a un nombre plus important de dénonciations. Je ne pourrais pas vous dire sur le phénomène général de la violence conjugale, mais oui, il y a de nombreux dossiers.
Pour terminer, pour rassurer justement les femmes qui peuvent être victimes de violences conjugales à l'heure actuelle et qui sont à l'écoute, expliquez-nous comment on prend soin d'elles dans le processus de dénonciation, parce que trop souvent, il y a des femmes qui restent enfermées dans cette violence-là de crainte justement de subir des représailles si jamais elles décident de porter plainte.
Mais en fait, pour les rassurer, je dirais que les procureurs sont à l'affût de l'instrumentalisation du système de justice par les auteurs de violence. Donc, on est au courant que certaines personnes peuvent avoir menacé leur victime de porter plainte contre elles si elles dénoncent les infractions. Donc, chaque dénonciation va faire l'objet d'une demande d'intenter des procédures. Elle va être analysée avec l'ensemble de la preuve par le procureur. Donc, ça va lui permettre là à ce moment-là de constituer une appréciation professionnelle de son du fondement juridique et il appartient au procureur dans nos directives de déterminer qui est l'agresseur principal et dominant. Donc, ça en fait partie de nos obligations en tant que procureur.
Madame Ducasse-Haïti, procureure dans les cas de violence conjugale, notamment au niveau du système de justice au Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous et merci d'avoir rassuré là, les femmes. Je crois qu'il faut que chaque personne qui vit des événements de violence conjugale soit à l'aise de dénoncer. J'invite les gens à le faire.
Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre temps. On apprécie grandement. Au revoir. Passez une belle fin de journée. C'était Maya Ducasse-Haïti, procureure générale dans des cas de violence conjugale. C'est fou, cette technique-là. Puis c'est pour ça que je tenais à faire cette entrevue-là. T'es un homme violent, t'es un homme contrôlant et jusqu'à la fin, tu vas te battre pour contrôler ta victime en y allant d'une plainte croisée.
C'est fou des fois de voir à quel point un être humain peut aller loin dans sa méchanceté, dans son crime au final. Je trouve ça dégradant que justement qu'il y ait cette stratégie-là qui voit le jour. Faut qu'il y ait des personnes qui aillent penser pour que ça commence à exister, de vouloir se faire eux-mêmes la victime de leur propre violence. C'est complètement inacceptable.
Le cas que la procureure vient de nous raconter d'un homme qui étrangle sa conjointe et qui porte plainte parce que son chandail est déchiré et qu'il y a des graphings sur le torse me sidère au plus haut point.
Je trouve ça difficile quand même en tant que personne. Je sais pas si je suis seul. Mais des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là pour qu'ils en arrivent à ce point-là.
Vraiment.
Pour qu'ils en arrivent au point d'être violents comme ça avec ces personnes-là. Puis là, qu'ils en arrivent au point, en plus d'être violents, aucune introspection est faite, pas capable d'assumer les responsabilités de ses actes. On se joue la victime.
Oh.
Comment une personne peut être capable de faire ça? J'ai de la difficulté à me l'imager.
Exactement. Après la pause, on va justement parler de positivisme autour de la femme avec Maggie Gagné, candidate pour Leadership Québec dans le district de Val-Bélair. Maggie est une jeune entrepreneure qui décide de se lancer en politique. Vous savez comment j'apprécie les gens qui ont le courage de se lancer en politique et c'est pourquoi je tenais à faire l'entrevue avec Maggie Gagné et surtout parce que j'ai une énorme admiration pour les femmes qui décident de se lancer en politique. Les jeunes femmes, on le sait, c'est un milieu dur, c'est un milieu difficile, puis les médias, malheureusement, ils contribuent aussi en critiquant énormément. Donc, je suis cette personne-là qui contribue à rendre la politique un milieu difficile. Et ça me permet de vous présenter également le podcast hors-série de ce soir, 19h, sur les ondes de Boulevard 102.1, parce que le podcast hors-série, ce soir, c'est moi-même qui l'anime. Et je me suis entretenu avec Joël Boutin, ex-député à l'Assemblée nationale pour le comté de Jean Talon. C'est une ancienne caquiste. On va justement aborder le sujet des femmes en politique, comment ça a été difficile pour elle, qui est une femme brillante, intelligente. Vous allez le voir dans le podcast, comment qu'elle nous explique la façon que le gouvernement devrait mieux utiliser le numérique et surtout l'intelligence artificielle. Et comment elle, la pression d'hommes, qui la considérait pas parce que c'était une femme, puis une belle femme, une femme jolie, qui considérait pas son point de vue. Donc, écoutez ceci à 19h. C'est exactement ce que Joël Boutin va nous livrer. Le podcast est une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Deux succursales à Beauport et Saint-Émile. Santé, la gang. Prenez un petit verre en écoutant le podcast ce soir. Vous allez voir, vous allez être renversé par ce que Joël Boutin va vous raconter. Courte pause, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission On en jase. Et par la suite, c'est Maggie Gagné, candidate pour Leadership Québec, qui vient s'installer dans nos studios. Bon, ben Mathieu, je pense qu'on va avoir bien du fun.
Ah, le fun, il est déjà pogné.
Le fun est déjà pogné. Maggie Gagné, candidate pour Leadership Québec dans le district de Val-Bélair, qui était ça avec nous autres. Hey, je mets tout ça, ces écouteurs-là. De la jasette en masse. Je pense que je suis en train de comprendre pourquoi elle se lance en politique. Elle aime le monde. Maggie Gagné, comment vas-tu?
Oh, ça va bien. Puis oui, j'aime le monde.
Oui, c'est ça. Ah, ben oui, ça va super bien. Maggie, super content que tu aies accepté l'invitation. Je le disais avant que tu rentres en onde. Je veux faire de la place aux femmes en politique, mm-hmm. des femmes jeunes, dynamiques comme toi. Je pense que c'est important que vous serviez de modèle pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui nous regardent via Twitch. Alors, vraiment heureux que tu aies accepté l'invitation. Dis-moi donc, comment ça t'est venu, le fait de dire « Hey, moi, je vais y aller en politique? »
Bien, en fait, moi, je suis dans la trentaine bientôt. Ouais. Et je trouve qu'on n'est pas assez représentés. On s'entend, mm-hmm. là, dans la population, on a des jeunes, on a des femmes, on a des hommes. Puis quand on regarde un peu le portrait politique, bien, il n'y a pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de femmes. Fait que moi, j'aime les défis. Je me suis lancée. J'ai traité beaucoup des dossiers compliqués, on peut dire, par rapport aux finances, vulgariser, redonner un peu de pouvoir aux gens sur leurs décisions. Fait que je me suis dit, ah, politique, beau défi, je viens de Val-Bélair, c'est mon coin. Donc, je veux inspirer, oui, mais faire une place aussi là, aux jeunes et aux femmes.
Pourquoi avec Leadership Québec?
Pourquoi avec Leadership Québec? C'est pas compliqué, c'est la bienveillance. Les idées sont comme moi, en fait, carrément. Là. J'ai fait plusieurs rencontres avant avec Sam, avec l'équipe. Oups, je suis pas assez proche.
Ah, et voilà. Non, c'est juste, faut que tu parles juste un petit peu plus en avant comme ça. Hey, pas trop, c'est plus nous autres que manquait notre devoir. Il y avait trop de fun dans la place.
Pourtant, j'ai mis mes oreilles. Là. Non, mais la bienveillance, en fait, carrément. Je suis une personne énergie, idée. Il faut que ça soit action, réaction. Je veux pas juste entendre parler, je veux aussi voir des actions. Donc, c'est pour ça que Leadership Québec me ressemblait plus.
Good. Est-ce que tu as des modèles en politique? T'as, y a-tu, je sais pas moi, une femme ou même, ça peut être un homme que tu dis, hey, moi, là, je fais de la politique parce que c'est à cette personne-là que je veux ressembler.
Bien, écoutez, ça serait de mentir que j'ai pas d'admiration pour la rigueur de Sam, de Sam Ahmad. Par contre, il y a quand même Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui fait une très belle job, qui s'assume pleinement dans son rôle de femme, dans son rôle de sœur, de mère aussi.
Ben
bientôt.
Oui! Hey, c'était beau, hein, de la façon qu'elle a annoncé ça avec le post mairesse, mais mère, là.
Puis complètement assumée, sans peur, sans. Puis j'aime ça, on est en 2025 aujourd'hui, là. Fait que la politique, il faut qu'elle représente les citoyens. C'est la ville des citoyens, c'est pas la ville des politiciens. Mm-hmm. Donc, voilà.
En effet. Catherine Fournier, soit dit en passant, qui va être dans l'émission d'En jase le 7 octobre prochain. Donc, on va avoir la chance de parler avec elle. J'ai bien, bien, bien hâte de discuter avec elle. Beaucoup d'enjeux là-bas à Longueuil. Puis, honnêtement, elle assume un leadership extraordinaire. C'est une femme qui est, très, très, très inspirante. Dans Val-Bélair, on a besoin de quoi dans Val-Bélair pour que la vie soit meilleure pour nos citoyens?
On a besoin, là, je vais vous dire, moi, j'habite à Val-Bélair.
Oui.
OK. Fait que moi, je fais la file chaque matin en auto, le trafic, je suis dedans.
L'enfer, hein?
Je dis des beaux bonjours, là, mais...
Non, mais pour de vrai, c'est l'enfer. Tu sais, on fait la circulation le matin, puis bah, boucher jusqu'à Sainte-Geneviève.
Ah, ce matin, il fallait aller à l'hôtel de ville, là, puis moi, c'est un pack avec le diable, là. Sincèrement, je suis désolée, là, mais on a besoin de solutions. On a besoin de solutions qui vont ici. T'sais, on n'est pas toute seule à Val-Bélair. On s'entend, c'est la ville de Québec au complet. Donc, on peut pas arriver avec des solutions qui vont juste répondre à Val-Bélair. On a besoin de solutions qui vont répondre dans le centre-ville, mais qui vont aussi se rendre jusqu'à Val-Bélair. Donc, oui, trafic. On a besoin aussi de retrouver notre ville, la nature. Je vais partager.
C'est vrai, mon oncle habitait à Val-Bélair dans le temps. Val-Bélair, ville de la nature.
Oui.
Mais mon oncle était un des premiers à s'établir à Val-Bélair. Il y avait genre trois maisons. Lui, il y en avait une.
Ouais.
Bon, il y a eu un moment, là, puis là, je regarde Fred qui est là, sûr, il y a eu un moment où Val-Bélair, c'était la ville du skidou.
Les skidou, c'est la galerie, là, je me le fais dire à toutes les
jours. Ouais, non, mais ça n'a jamais existé, ça.
Ben honnêtement, il y en a qui ont peut-être fait des blagues avec ça, mais moi, j'ai pas vu de skidoo. Puis je suis allée au primaire à Val-Bélair, j'ai fait la moitié de mon secondaire
okay,
aussi.
OK, je vais te croire.
J'ai pas vu de skidoo sur la galerie. D'habitude, okay, on a un garage.
Ouais, je vais te croire.
On a fait... besoin de notre plein air, puis c'est important. T'sais, je comprends le besoin avec les logements. On est content aussi que ça se développe, mais mm-hmm. c'est peut-être d'avoir une meilleure transparence puis un peu plus d'idées là, des citoyens pour pouvoir...
Puis comment on redonne la nature aux citoyens de Val-Bélair et aux citoyens de Québec là, par le fait même?
Bien, je pense qu'il y a une certaine logistique à avoir. T'sais, quand on met des blocs de condos, il y a possibilité sûrement de jaser avec les citoyens puis de voir un petit peu où que ça pourrait être. T'sais, c'est de faire participer les gens, carrément. Mm-hmm. Je pense que les gens, présentement, avec mon porte-à-porte, je me rends compte qu'ils se sentent un peu... ils se sentent écoutés, mais ils reçoivent plus les nouvelles qui consultent l'administration actuelle, sans donner de défaut. Je veux dire, ils se sentent pas écoutés. Ils ont plus l'impression de recevoir la nouvelle puis de se dire « OK, c'est ça qui va se passer. Puis on n'a pas parlé avant, mais maintenant c'est réglé, c'est mm-hmm. ça puis c'est tout. »
Des consultations bidons un peu, du style « on vient vous présenter l'information, on prend vos commentaires, mais on n'en tiendra pas trop compte? »
Bien, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais moi, je veux dire, je suis une jeune de 30 ans, je suis super proactive, puis j'habite à Val-Bélair, je sens pas la présence. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est difficile un peu de joindre, c'est pas centralisé, on a de la misère à... Si je veux dire, j'appelle où? J'appelle qui? Ça prend 3 jours à... C'est tout un peu... je pense que... Puis partout dans la ville de Québec, je crois qu'il y a quand même un bout à travailler.
Bien, dans le fond, c'est de ramener le principe du service aux citoyens. C'est ce que tu prônes.
Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, moi, je fais mon épicerie à Val-Bélair. Je me promène à Val-Bélair. Je vais marcher à Val-Bélair. Je suis partout mm-hmm. à Val-Bélair. Donc, je trouve que c'est important d'avoir une accessibilité aussi à notre conseillère ou conseiller municipal. Puis, encore une fois, je le dis, mais de l'écoute. On dit de l'écoute, là, c'est le plus important. Là. Puis... pas juste écouter pour entendre, là. Mm-hmm. Écouter pour agir. Action, réaction, je l'ai dit tantôt, là, mais ça prend ça.
Je veux que tu m'amènes dans les coulisses. Comment ça s'est passé avec Sam Ahmad? Pourquoi Sam Ahmad t'a choisi? C'est quoi les discussions que vous avez eues? Comment t'as... Il va falloir que tu fasses un pitch de vente pour dire « Hey Sam, prends-moi, moi je suis Maggie Gagnier. »
Ben, écoute, moi je vais dire, là, puis c'est la vérité, la première fois que j'ai rencontré des gens autour de Sam dans son équipe, j'ai dit « Mais pourquoi? » Là, j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas vraiment proche du milieu politique. J'avoue que, tu sais, ma génération, des fois, on perd un peu comme confiance. On mm-hmm. se dit, on a-tu vraiment un impact? Puis, tu sais, c'est un peu des choses qui se trament dans nos têtes. Mais là, je me demandais, je disais, est-ce que j'ai un profil qui ressemble vraiment à ça? Bon, je suis super impliquée, là, avec mes sacs d'école. Je donne beaucoup de matériel scolaire.
Oui,
partout.
J'ai vu ça, bravo en passant.
J'aime beaucoup les bonnes actions. J'ai toujours fait ça. Puis, soit dit en passant, campagne, pas campagne, je le fais, je vais le faire encore.
Bon, oui, je comprends.
On va se parler, je vais le faire encore.
Tu vas le faire encore.
Fait que
bravo, ça, je crois beaucoup à ça, les organismes communautaires. Je travaille longtemps dans le communautaire, donc merci. Félicitations.
C'est 100% bénévole, puis il y a tous les gens qui m'aident, là, c'est ça qui crée, en fait, ce bel mm-hmm. engouement-là. Mais j'ai posé la même question ensemble. J'ai dit, tu sais, pourquoi, en fait? Je pense que ça l'a quand même attiré le fait que... Attiré, on s'entend, là. Mais le fait que j'aime beaucoup vulgariser. Comme j'expliquais tantôt, c'est des sujets de finances qui sont plus compliqués, de faire comprendre aux gens, puis prendre le temps aussi, là, pour que les gens aient un meilleur contrôle de leurs finances. Donc, ça peut s'amener, en fait, je pense, mm-hmm. du côté politique, avoir un meilleur contrôle sur notre avis, avoir un meilleur contrôle sur tout ce qui est relié à nous. La politique municipale, c'est tellement proche. Donc, j'aime le monde, carrément. Fait que je pense que c'est ce qui l'a le plus attiré envers ma candidature. Puis, cool. Mon grand sourire, puis veux pas mon dynamisme, là. Moi, il faut que ça marche.
Oui. Donc là, si t'es élu à l'Hôtel de Ville, là, puis Leadership Québec est élu, là, Sam Ahmad est élu comme maire, là, mm-hmm. là, tu vas toujours être dans son bureau. Il dit, faut faire ça, je te sens de même.
Ben c'est ça. Je peux peut-être être tannante un peu, mais écoutez, là, je le fais quand c'est important. Je ne vais pas être tannante, je ne vais pas parler, mettons, il y a un bouton qui ne marche pas dans mon bureau, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne sera pas ça.
Tu vas te débrouiller. Là.
Oui. J'ai une phrase que j'ai toujours, là, la différence entre l'efficacité et l'efficience, c'est quoi?
Je sais pas. Ben, surprends-moi.
L'efficacité, tu vas te rendre à ton but en dépensant des ressources, mais l'efficience, tu vas te rendre à ton but en dépensant le moins de ressources possible.
Ah! Et là, toi, tu viens pour rendre la ville efficiente.
Et voilà!
C'est donc bien intéressant, ça. C'est très intéressant. C'est ta première expérience en politique. On se le cachera pas, la campagne électorale à l'heure actuelle. Puis, à mon grand désarroi, c'est une campagne qui est sale. Puis moi, je veux qu'on parle d'idées. Puis là, on fait bien plus se lancer des tomates.
Oui.
Comment tu trouves ça?
Bien, honnêtement, là, moi, je suis pas une très grande écouteuse de nouvelles. Là, on va se le dire comme ça. Puis là, bien, veux pas, j'ai pas le choix. Hein?
Bien, t'as pas le choix. Ben oui, exactement.
Puis je me rends compte... Je trouve ça plate. Honnêtement, là, je trouve que c'est pas intègre. Puis c'est sûr que là, en étant dans la conférence de presse, on parle des fois pendant une heure avec les médias. On est super généreux de notre temps. Puis, tu sais, les autres vont couper un peu plus court pour être sûr de ne pas se faire pogner quelque part. Mais nous, on se dit, crème, on a plein d'idées. On veut parler d'idées. Revenez ces idées. Lâchez un peu les personnalités, mm-hmm. les personnes. C'est pas une bataille de personnes. C'est une bataille d'idées. Donc, on prend notre temps. Puis au final, ben on dirait que c'est mauvais pour nous de prendre notre temps. Donc, je trouve ça plate de voir une conférence de presse de une heure, de voir des bonnes personnes du monde qui... Tu sais, on fait ça pour les citoyens. Là. On prend tout un... Comment je pourrais dire? Ça prend du courage, là, se mettre ouais. en face sur des pancartes. Puis de se faire ramasser un peu comme ça, je trouve que... C'est du côté humain. Moi, je suis très humaine. Ça touche mon cœur. Je trouve ça
vient faire mal. Ouais. Est-ce que tu vois un autre côté de la médaille, l'envers de la médaille, avec le porte-à-porte? Comment les gens t'accueillent quand tu fais du porte-à-porte?
Très bien. Honnêtement, j'avoue que j'avais un petit stress parce que je me disais, crime, il y en a qui ont plus d'expérience, sont plus... On s'entend que je suis pas agressive. Là. J'ai pas le physique d'une personne agressive non plus. Là. Je suis quand même assez douce.
Non, puis en même temps, tu sais, je suis une jeune femme en politique... Puis là, peut-être que c'est moi qui ai rempli de préjugés. Mais il peut avoir une gang de baby boomers, je te demande, qu'est-ce que tu fais là?
Ouais, même pas. En fait, moi, je fais saluer mon courage souvent. Je connais beaucoup de monde à Val-Bélair.
Je suis vraiment content.
Je vais cogner à des portes, puis c'est les parents de mes amis avec qui j'ai joué quand j'étais petit. Tu sais, je veux dire, mes professeurs. Donc, j'ai quand même, un bel accueil.
Mm-hmm.
Les gens se fâchent pas après moi. J'étais quand même stressée un petit peu mes premières portes parce que je me disais, crime, les autres sont vraiment comme. Ils parlent raide, puis ci, puis ça, puis là, ça a l'air qu'ils sont partout dans Val-Bélair, puis nanana. Fait que là, je me disais, Colin, ça va être rough, tu sais, je vais utiliser mes souliers. Mais au final, souvent, j'entends même pas parler des autres candidats, donc ça va super bien. Sincèrement, mon porte-à-porte, là, 10 sur 10.
Maggie, on te souhaite le plus grand des succès. J'adore voir une jeune femme comme toi se lancer en politique, se lancer dans le vide, comme j'aime appeler. Je te souhaite vraiment le plus grand des succès. Merci d'être venue à notre émission aujourd'hui. Puis bon courage dans cette fin de campagne électorale. J'espère qu'on va parler de plus en plus des idées. Il faut débattre des idées et non pas des personnes.
Merci beaucoup. Puis c'est tout à ton honneur de nous faire une place. Là. Merci. Un gros coup de cœur.
Ça me fait un immense plaisir, Maggie. On se reparle. On se donne ça. On fait une soirée électorale à Boulevard, là, je l'annonce, le 2 novembre prochain.
Oui.
Fait qu'on s'organise pour se parler.
Merveilleux.
On va souhaiter te parler quand tu vas être élu.
Oui.
C'est bon, ça?
Je vais être élu.
Parfait, good. Salut, Maggie. Merci beaucoup.
Bye
bye. Il reste quelques minutes à l'émission. Mathias, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
Oui, bien, je vous rappelle que du côté de la Ville de Québec, on va vraiment de l'avant avec le tramway, alors qu'on a fait le deuxième plus grand investissement d'argent pour le tramway. C'est une transaction de 22,2 millions de dollars qui vise à acquérir.
Là, Mathias, faut que je t'arrête, là, parce que là, j'ai vu Maggie faire 22 millions sur le tramway. Qu'est-ce que tu parles?
Okay,
vas-y, on te laisse réagir.
Non. Je vais juste dire non. Là, on n'en veut pas de tramway. Là. C'est assez, là. La première annonce, je m'en allais partir et j'ai remis mes oreilles.
Non, mais ça doit être... Puis là, on en parle, là, parce que moi, je suis pro SRB depuis 2015. Je l'ai présenté au chauffeur d'autobus, le projet d'SRB en 2015. Je travaillais au RTC, j'ai toujours cru au SRB. Ça doit être frustrant pour un résident de Val-Bélair voir 7,6 milliards dépensés pour un petit corridor en Haute-Ville.
Voilà. Non, mais écoute, ça prend des solutions pour... Tout le monde, quand je disais tantôt, c'est beau avoir des solutions à Val-Bélair. Oui, on a besoin de solutions pour le RTC, ça prend une meilleure gestion, mais le tramway, il se rendra pas à Val-Bélair. Puis il faut penser, nous, en tant que personne de Val-Bélair, que ça prend quelqu'un en ville ou bien quelque chose en ville aussi qui va gérer la situation. Donc, ça prend un
projet. C'est un amalgame. C'est, dans le fond, c'est rapprocher les banlieues et le centre-ville.
On n'est pas seul. Faut le comprendre. Ça prend des solutions pour tout le monde. C'est tout. Là, l'annonce du tramway, là, on la passe.
On la passe.
OK. Ça y est, rendu qu'elle anime le show.
Ouais, non,
on va faire quoi, Fred?
Il m'invitera plus le
deux. Faut que je me lance en politique puis Maggie vient animer le show. Qu'est-ce que tu fais au site, là? Je perds ma place.
Ouais, je pense que les deux, on va perdre notre place, ouais, Jeff. Ça va être Maggie tout seul de midi.
Je perds ma place. Bon, ben Maggie et Antonine demain. Et Matt, on va aller faire du porte-à-porte.
Nous autres. Les souliers vont aller mieux. Petites ampoules.
Aïe.
Hey, merci.
Fait plaisir, Maggie. Salut.
plus de tramway, je m'en vais pour vrai.
OK,
là.
Parfait. Bonne fin de campagne.
OK, merci.
Salut.
Du côté de David de Québec, encore une fois, ce qui fait énormément de bruit depuis hier soir, c'est une vidéo qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux qu'on voit des pompiers se faire ralentir par des fameuses barrières qui permettent de bloquer des voitures pour des passages piétons, pour rendre les rues piétons, justement. Eh bien, aujourd'hui,
okay,
on a
là, au moins, avec les barrières, on s'en est sauvé. Meggy quitte le studio. On peut garder nos jobs. Salut, là!
Mais ouais, c'est ça, justement ces barrières-là qui ont retardé des policiers qui devaient intervenir sur un incendie qu'on dit criminel du côté David de Québec, ces différentes barrières-là qui visaient à rendre la rue Saint-Jean piétonne, donc qui s'activaient tout ça et qui pouvaient se désactiver à l'aide d'une clé, ont été retirées de manière préventive justement du côté David de Québec après les différentes situations qui sont arrivés hier. Je pense qu'on comprend tout ça.
En plein ça. Également. Dernière pour la route?
Ouais, je tiens à dire, la ministre de l'Emploi, Patty Adieu, aujourd'hui, qui a demandé à Postes Canada de déposer rapidement une offre au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en grève. En gros, Postes Canada qui a déclaré sa grève après des différentes modifications que le gouvernement fédéral voulait apporter. Du côté de la ministre, on n'exclut pas une intervention fédérale pour ramener des employés au travail, mais on demande à Postes Canada de faire un effort avant qu'on intervienne et de retourner s'asseoir avec les employés et le syndicat.
Je disais avant l'émission, peux-tu fermer ça parce que Canada privatiser ça et arrêter? Là. Oh my God! Quelle saga malheureuse où on dépense des milliards de dollars. Mathias Turcotte, toujours un plaisir.
Yes, sir!
On remercie Antonine également d'avoir été là pour la première heure. C'est ça l'émission On en jase. On jase avec plein de gens de différents horizons politiques, plein d'acteurs de l'actualité et vous le voyez, on le fait dans un ton cordial avec bien, bien, bien du plaisir. Parlant de plaisir, c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même sur nos ondes, suivra Marceau le soir et le podcast hors série que j'anime avec Joël Boutin comme invité. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent après-midi et à demain, guys.
À demain.